c'est si la scène même.
So don't just dream about applying for the Academy. Make it come true. You can find a career in space. Exploration, Starfleet, or merchant service. Choose from navigation, engineering, space medicine, medicine, contact liaison, and more. If you have the right stuff to take on the universe and standardized examination scores that meet requirements, dispatch your application to
Screening Office, carry the Commandant, Imperial Space Academy, your sector, and join the ranks of the proud.
Aha! Applicant's information packet! Imperial Space Academy!
Will you stop?
Aha! You still see a Nova's hunger. Looks like the tape's been played a few thousand times.
Give it back!
The great Luke Skywalker, hero of the universe! When are you gonna grow up, Luke? You're a farm boy just like me.
So you happen to qualify. So what? What do you think you are, Biggs or something?
Yeah, he just wants to go to the Academy because Biggs did. He always was a hero.
Yeah, I'd like to go to the Academy. Why shouldn't I?
What's on the program for today, Princess?
Speed run, Skywalker. Speed run.
Oh? Yeah. All right. Huh. You're on. Buckle up. Hey, what are you doing? Standing in for Big. Brace yourself.
Here we go. One run down the back stretch, Skywalker, whenever you're ready.
Hey, wait a minute. You and Fix are in the bottleneck together? Count me out.
Well, jump.
Roll it even wait. With me, Skywalker, but let it rip. Yep. Okay, hit it.
We won.
What did you get back from the Academy?
For the two shooting stars that reunited at last. I'm so thrilled to be here.
I just got in on the shuttle. I wanted to surprise you, Luke. You know, I thought you'd be here when I arrived. I forgot you have the harvest coming.
Yeah, I'm stuck here.
But I thought you were going to the Academy next week.
I had to cancel my application. You know, the sand people acting up again.
Come on, Luke! Your uncle can hold off a whole Tuscan raiding party with one blaster. One of these days, buddy, you've got to separate what seems important from what is.
But the farm's just about to start paying off. Look, Uncle Owen needs me for one more season.
Biggs, I can't just run out on him and Aunt Beru now.
Uncle Owen, Aunt Beru, first it's sand people, now it's the crop. Meanwhile, your application's been canceled, Luke. Canceled. Luke, listen to me. Your uncle uses that I fed you and brought you up line to keep you here. Can't you see that?
Biggs, my aunt and uncle are the only family I've got. They're all I've got. I don't care what you or anybody else thinks about me. I can't let anything happen to those
Luke,
two.
I didn't mean
I'll go to on. Find your rebellion. You don't think I'd like to leave? You think I like staying behind?
I never thought that, Luke.
Well, that's how it sounded.
Here, I'll let you off by the power station.
Listen, next season, I'm going to be going to the Academy for sure.
No, I am, I am.
Take care of yourself.
So long, Luke.
Biggs.
Yeah?
You really think those ships out there were just waiting?
Not if you say they were firing, my friend. I won't let it show. Now that you are
www.cyclan.net.
Hi, this is Steve Sansweet, and you are listening to Star Wars en Direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com. Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net. StarWarsEnDirect.com vous présente Star Wars en direct.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam has pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Hey, bonjour tout le monde, c'est Star Wars en direct,
woohoo!
Numéro 29.
Ouais, gros 29, woohoo!
On est le 25 mai, qui est exactement 20 ans
après Return of the Jedi.
Exactement.
Et 26 ans exactement après Star Wars A New Hope.
26 ans?
26 ans exactement.
Ben, ça se peut. Ah ben oui,
ah oui.
Mon Dieu. Aujourd'hui, ben notre émission, c'est justement consacrée à ça, aux 20 ans de... Star Wars, Return of the Jedi, et puis on va aussi parler du concert Star Wars à la fin de l'émission avec Jocelyn.
Monsieur Jocelyn monsieur... Leblanc, invité spécial dans les studios de Radio Citlan.
Et
bonjour.
Oui. Qui est l'arrangeur, c'est ça le titre?
Arrangeur, directeur,
directeur,
ouais.
Etc.
Maestro de l'orchestre avant le
big
film.
Le big boss. Et puis, évidemment... on va commencer, comme d'habitude, on va aller lire les qu'est-ce que vous avez laissé sur les forums. On va laisser nos commentaires. Il y a aussi Sébastien qui a préparé son petit insider.
Oui, les 100 secrets de Jedi.
Vas-y, continue.
Les 100 secrets de Jedi en 60 minutes.
Exactement.
Il n'y en aura pas tout à fait 100. Je vais en sauter quelques-uns qui sont assez insignifiants. Là.
C'est
ça. On va révéler certains secrets qui sont quand même intéressants.
Exactement. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière émission? Bon, on a tous été voix de Matrix. Entre autres, d'ailleurs, c'est le thème musical de l'émission. Vous l'avez sûrement entendu, ceux qui se sont branchés un petit peu plus tôt que les autres, qu'on faisait jouer le score, comment que t'appelles ça en français, la partie musicale.
Trame sonore.
Trame sonore, ok.
La trame sonore.
La trame sonore du film Matrix Reloaded. Et les pauses musicales vont être des chansons, des groupes qui ont fait de la musique inspirée de Matrix. Donc, vous allez entendre ça pendant les pauses. Et puis, là, nous autres, on a vu le Matrix, c'était quand, mercredi? Pas passé l'autre.
Mercredi, de deux semaines.
Hein? De deux semaines, là. En tout cas, c'était pas mal bon. En tout cas, moi, j'ai...
C'était le fun. Mmh. Ceux qui l'ont pas vu encore, ben écoutez, ce serait peut-être le temps que vous alliez le voir, là. Mmh. C'est toujours le fun de voir
Nero avez...
voler à travers les flammes d'un building qui explose et faire comme un faucon et se sortir à la limite
de l'explosion, là. C'est vrai que c'était un peu cliché pareil, hein.
C'est cliché.
Exactement.
Et Trinity avec sa fameuse phrase « Here they come ».
Oh, j'avais même pas remarqué.
Sentinels. Ah oui. Elle se retourne, elle s'arrête. Here they come. Voilà.
Un peu pareil. Aussi, depuis la dernière émission, évidemment, je pense que tous ceux qui sont sur le chat le savent, c'est qu'il y a un nouveau site web. Donc, ceux qui vont écouter en reprise, ils pourront pas écouter la reprise s'ils vont pas sur le nouveau site web. Donc, c'est annoncé sur citlan.net. On a fait un nouveau site web où est-ce que maintenant vous pouvez tous télécharger les anciennes émissions. Sauf les quatre premières qui ont été jamais enregistrées. Les quatre premières, là.
Je pense que j'ai peut-être un enregistrement encore
sur cassette
de la deuxième, troisième. Là. Faudrait que je fouille.
Mon Dieu, le son doit être horrible.
Mais mettons que quand le téléphone sonne, on le sait.
OK. Et puis, aussi, il y en a quatre que j'ai pas fini d'éditer. L'émission 8, 9, 10, 11, que je vais mettre éventuellement. D'ailleurs, si vous allez dans la page archive présentement... Vous allez remarquer que la page est désactivée. J'ai désactivé la page archive pour pas que ça nuise à la bande passante, pour pas que vous téléchargiez pendant l'émission, parce que ça pourrait nuire au nombre d'auditeurs, etc. Donc, on a tout prévu ça en conséquence. Et puis, ceux qui veulent voudraient être partenaires ou commanditaires de l'émission, ben allez dans les pages correspondantes. C'est tout expliqué, ceux qui ont des sites web, etc., ou ceux qui aimeraient passer... pour promouvoir leur boutique ou peu importe, là, vous avez juste à nous contacter, c'est tout indiqué sur le site. Et en gros, c'est ça. Pour nous rejoindre, ben là, comme d'habitude, il y a le chat maintenant qui n'est plus sur MIRC, mais qui est directement sur le site de StarWarsEnDirect.com, SWEnDirect.com. C'est la première fois qu'on le laissait, on va voir qu'est-ce que ça donne.
Jusqu'à maintenant, ça t'offre bien.
Ça t'offre bien. On va essayer de formater pour que la fenêtre puisse être plus petite ou toutes sortes de petits trucs. On va essayer de l'améliorer. On l'a fait une journée avant de mettre en ligne le nouveau site. Donc,
c'est quand même une belle place pour que les auditeurs puissent chatter pendant l'émission.
Exactement. Et voilà. Puis, d'ailleurs, vous pouvez vous enregistrer, ceux qui sont enregistrés. Sur le chat, vous voyez avec un petit personnage à votre gauche. Ça veut dire que personne ne peut reprendre votre nom. Vous êtes enregistré avec ce nom-là, personne d'autre peut le prendre, peut le reprendre.
Tu peux-tu savoir si c'est un double sabre laser?
Et puis, il y a les forums aussi, les forums Star Wars en direct. Vous cliquez sur le lien forum du site principal. Et puis, par téléphone au 514-942-1138. 514-942-1138. Et il y a la webcam, je crois qu'elle fonctionne. Oui, elle fonctionne. Donc, moi, je suis le plus proche, et puis Sébastien de l'autre à côté, Jocelyn avec la chemise bleue qui est dans le fond.
Fait que ça, c'est la main de Sébastien qui est cachée par
exactement.
Par l'ego gigantesque de Lunatic.
Oh, l'ego gigantesque, mon Dieu. Bon, ben, on va tout repartir notre première petite pause avant qu'on embarque dans le vif du sujet du 20e anniversaire de l'émission. Et puis, on revient immédiatement après, et on se laisse avec la petite musique... de Linkin Park et la chanson Session qui est une instrumentale, donc ça dure 2-3 minutes. On vous laisse, on revient dans quelques instants.
Star Wars en direct, le seul talk show Star Wars sur le web.
Jonathan, Dachinet vient juste d'arriver.
Non, notre super copain de l'OVMF s'est joint à nous.
Eh oui. On va vous parler tout à l'heure pour l'entrevue. Prends le temps de bien manger. Donc, je vais partir de la petite musique de fond et puis on va immédiatement commencer le sujet principal qui est...
Les secrets du retour des Jedi.
Ouais. Et c'est parti. Donc.
Ben oui, fait que là, on va spoiler les Français qui n'ont pas encore reçu leur Lucasfilm Magazine.
Exactement. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça risque d'être probablement tel quel dans celui qui sort en France demain.
Ça fait partie des déboires d'habiter outre-mer.
Exactement. Donc, on va juste parler de ça, non?
Ben
non,
en majorité. Juste les. Faisant
quelques-uns, après on va aller dans le forum, regarder les commentaires. Et puis on va.
Ben même, tiens, on va voir quelques-uns des.
On va faire ceux qui ont été laissés sur cette plan avant qu'on ouvre le nouveau site web.
Ben ça, ben, regarde-les pendant ce temps-là. Moi, je vais commencer avec les scènes qui ont été perdues.
Okay.
Puis tu diras juste qu'est-ce qu'il y a comme ben gros de la lune.
Il y a un masse de textes, c'est des souvenirs, donc.
Ouais, c'est ça. Alors, la première scène qui a été vraiment perdue dans le Retour du Jedi, c'est une scène qu'on pouvait voir non seulement dans le livre qui avait été fait pour les enfants avec les images du Retour du Jedi, c'est la grille de la cage du Rancor, que Luke il a fait un saut Jedi pour essayer de se sauver du Rancor, mais là, malheureusement, il y avait Riggies qui était là, puis les Jawa qui donnaient des coups de fusil sur les mains de Luke pour qu'il retombe dans l'antre du Rancor pour se faire dévorer tout vivant. Donc, ça, c'est une des scènes qui a été tournée, effectivement. Luke fait un saut d'une quinzaine de mètres de haut pour se rattraper aux grilles, mais malheureusement, il se fait rejeter dans le fond de l'antre du Rancor. Ensuite, toujours dans les mêmes séries de scènes, sur le fameux voilier de Jabba the Hutt, le sales barge.
La barge, oui.
La barge. Alors, ces trois PO étaient. Un translateur en français.
Traducteur.
Un traducteur. Un translateur, c'est quelqu'un qui bouge de côté. Un traducteur, c'est quelqu'un qui.
Translationné.
Bref, alors, il traduit une scène entre Ethan Munn et Reese. Ethan Munn qui s'est finalement retrouvé à être nul autre que Yak Face, Self-Mary Yak Face. Mais,
c'est sûr, c'est possible qu'il y ait comme une face.
Non, c'est ça, mais ils ont changé les noms finalement.
Okay.
C'est ça qui explique. Puis, il y a eu une petite erreur de traduction de la part de C-3PO, fait que les deux ils ont commencé à se battre. Bref, C-3PO s'est sauvé, puis c'est là qu'il a retrouvé R2-D2.
Ok.
T'es tout content. Alors, toujours dans la même série sur Tatooine, la série des scènes de Tatooine.
Okay.
On parle d'un sandstorm, une tempête
de sable
qui a eu lieu sur Tatooine. Alors c'est juste avant le départ de nos héros pour aller retrouver le restant de la flotte républicaine, ainsi que pour Luke de retourner sur Dagobah, voir la mort de son malheureux maître qui avait à ces moments 900 ans. Puis, Obi-Wan, on en a souvent entendu parler que Obi-Wan devait être le frère de Owen Lars.
Ouais.
Puis, ça a été nourri, cette rumeur-là, par le fait que dans le livre, il y avait une petite
passe. Il y avait Your Brother, quelque
exactement.
Chose.
Exactement. Et c'était dans le film, c'est une scène qui a été tournée où Obi-Wan parlait beaucoup plus longuement. Malheureusement, ça a été coupé. Ça s'est ramassé sur le plancher.
Okay.
Les archives. Et qui ne se souvient pas des deux gardes impériaux de chaque côté de l'ascenseur de l'enfer à la salle du trône? Et bien, imaginez-vous, ces deux bozos-là, ils ont voulu arrêter le Dark Lord of the Sith, Darth Vader lui-même. Fait que d'un seul coup de main, un peu comme on l'a vu faire plusieurs reprises dans les autres films, il en étrangle un. Il laisse donc passer assez rapidement et assez simplement. Ça fut aussi simple que ça. Crix Madine.
Ouais.
Nous souvenons tous.
La belle coupe de cheveux.
Du général Madine et de sa belle coupe de cheveux, oui. C'est une coupe de cheveux qu'on pourrait qualifier de chevalier Longueuil. Pas loin, je crois.
Ouais.
Alors, c'est ça, General Madine a sa propre scène dans la bataille à la fin du film, mais malheureusement, ça a été coupé. On leur envoie Akbar à la place plutôt que Madine qui ont dû couper un peu des scènes de la bataille finale, malheureusement. Toujours dans les gardes impériaux, on sait que il y en avait qui étaient à l'attente de l'empereur quand ils sont descendus de la
navette.
De la navette avant lui. Mais il y en a un qui a donné un petit coup de choc au Moff Gerard.
Mais voyons donc.
Celui qui, le Moff Jar Jar étant le commandant en chef de la deuxième Death Star. Et c'est ça, il l'a juste un petit peu accroché. Bref, c'est une joke qui était on set, mais c'est quand même...
Ils l'ont coupé,
mais ça aurait été vraiment drôle à voir.
Mais il me semble que le film commence tellement sérieux, tu mets pas une joke là, tu sais, le gars accroche le mof, puis l'autre il se fait électrocuter. Ça commence pas c'est... très bien.
Mais... Oui, mais l'empereur... c'est beau, l'empereur... La mort de Lando.
Ouais, celle-là je l'avais sortie quand on discutait de ça.
Et oui, les fameuses rumeurs veulent que quand Han Solo, avant le décollage de la navette Tidirium pour partir pour sa mission sur Endor, il regarde le faucon et il dit « J'ai ce pressentiment que c'est la dernière fois que je le vois. » Eh bien non!
En réalité, c'était supposé vraiment être la
en
dernière
réalité,
fois.
En réalité, c'était supposé être la dernière fois et le faucon était supposé de
être engouffré par les flammes de...
périr au cœur de la Death Star quand elle explosait. Mais on a vu que, tout comme Neo dans Matrix Reloaded, on peut se sauver juste à temps des flammes.
En effet.
Alors, qu'est-ce qu'on dit sur les forums?
Bon, je posais la question, évidemment. Bon, c'est le 20e anniversaire du film Le Retour du Jedi, la trilogie originale, et puis pour la plupart d'entre vous, ben, c'était le premier film Star Wars que vous avez vu sur le grand écran. Je vous demandais quels étaient vos souvenirs, anecdotes, etc., qui vaudraient la peine de nous partager. Alors, le premier qui a répondu, c'est Revenge. Il mentionne personnellement Le Retour du Jedi est sans aucun doute mon film de Star Wars préféré. Et ce, malgré le fait que plusieurs prennent plaisir à dire que c'est le moins bon de la trilogie classique et qu'ils préfèrent L'Empire contre-attaque. Je me rappelle à l'époque comment j'étais impatient à la fin de L'Empire contre-attaque afin de savoir ce qu'il allait arriver à Han Solo, prisonnier du bloc de carbonite. Ce que j'ai toujours aimé de ce film, c'est le fait que l'action se déroule à plusieurs endroits. Sur Tatooine, au palais de Jabba, ensuite on revoit Dagobah. Pour conclure, il y a trois affrontements, un sur Endor pour détruire le bunker, une bataille spatiale afin de détruire la seconde Death Star, et finalement, un duel final au sabre laser entre le père et le fils, au grand plaisir de l'empereur Palpatine. De plus, à l'origine, avant les éditions spéciales, c'était le film qui englobait le plus de personnages de la saga. Qu'ils soient décédés ou non, on faisait enfin la connaissance de l'empereur et de Jabba. On avait tellement entendu parler auparavant, sans vraiment les voir ou à peine. Le nombre incroyable de créatures que l'on trouvait au palais de Jabba était quelque chose que de jamais vu ou presque. Malgré qu'ils étaient pour la plupart horribles, plusieurs de ces créatures demeurent encore aujourd'hui des personnages intéressants autant par leur background et toutes les magouilles que l'on peut découvrir en lisant les différentes bandes dessinées ou romans. Bub Fortuna, Salacious Crumb, Tessek, les Gamorrean Guards, Wiki, pour nommer que ceux-là, sont tous des personnages inoubliables, même si leurs apparences ne furent qu'assez brèves. C'est vrai que...
Un assez inoubliable, c'est d'ailleurs Sainte Marie Hackface. On le voit à peine 3 secondes en Return of the Jedi, dans le bar de Jabba. Et c'est vraiment horrible à quel point les figurines d'époque de ce personnage-là peuvent se vendre à un prix.
C'est ça. Aussitôt qu'un caméo quelconque, que ce soit 0.5 secondes, t'es certain qu'il y a une figurine qui va sortir
ouais.
sur le marché. D'ailleurs, je pense que Revenge, pour les livres et les BD, bon, pour les livres, vous pouvez... je pense que c'est dans le Tale from the Jabba's Palace. Ils reprennent une quinzaine de personnages et racontent leur histoire à chacun. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent lire ça.
Toute la série des Tales, en fait, est vraiment... c'est vraiment des livres
spécialement pour ce genre de scènes-là. Ensuite, il continue, il dit « Je me rappelle d'avoir été voir le film à Montréal, au Parisien à l'époque, avec mes cousins, avant l'épisode 1. C'était le film que j'avais eu la chance de voir le plus souvent, c'est-à-dire au moins 5 fois lors de la présentation en salle. Je me rappelle encore d'avoir été marqué par Jabba the Hutt, qui devant les efforts acharnés des rebelles, et ce pauvre C-3PO qui restait bouche bée et surpris à chaque fois qu'ils entendaient le ricanement de Salacious. Cependant, un des faits marquants de ce film était sans aucun doute la célèbre course de motojet à travers la forêt de Endor, les speeder bikes. Il y a aussi les petites boules de poils appelées Ewok, qui m'ont toujours fait sourire et je n'ai jamais oublié cette belle façon, cette belle leçon de vie que parfois le plus petit peut vaincre le plus grand et plus fort que lui en apparence. Je peux conclure ce message sans parler du combat entre Luke et Darth Vader. Encore aujourd'hui, lorsque j'écoute les dialogues, je ressens les mêmes émotions que par le passé, même 20 ans plus tard. De voir Luke échouer à retenir ses pensées et Vader qui se sert de ça pour manipuler son fils alors qu'il est lui-même déchiré est tout simplement incroyable. Et que dire de la musique qui ajoute un climat dramatique. Les répliques du genre « Ce nom ne signifie plus rien pour moi. » Ta sœur, donc tu as une sœur jumelle. Obi-Wan me l'a caché. Maintenant, son échec est total. Ou une autre phrase qu'il dit « Je suis un Jedi, comme mon père avant moi. » Si tel est ton destin, tu seras éliminé.
Il ne restera plus rien à dire.
Ils sont pour moi parmi les meilleurs de toute la saga. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit bout de chronique là-dessus.
Ben, dans la section, les 9 lignes les plus mémorables.
Ok. Moi, ça n'est pas tout de suite. On va les garder. Voilà donc pour mes raisons les plus... voilà donc pour ces raisons et plusieurs autres pourquoi l'épisode 6 a toujours été l'un de mes préférés et sûrement que les autres fans évoqueront plusieurs autres raisons expliquant pourquoi ce film retient encore l'attention même après 20 ans. Et c'était le commentaire de Revenge. C'était assez long. Et ensuite, Michael Skywalker. Il répond. Que dire d'autre la première fois que j'ai regardé ce film, que je l'adorais au début, du début à la fin. Je ne suis pas assez vieux pour l'avoir vu au grand écran, car à peine un mois plus tard, suite à sa sortie au cinéma, je faisais mon entrée dans ce bas monde. C'est donc en 96 que je découvris pleinement l'univers merveilleux de Star Wars et de Return of the Jedi, de par l'édition spéciale de la trilogie originale.
D'ailleurs, je vais juste faire une petite pause. Ceux qui ont l'accès à Internet pendant... Ben, non, ceux qui ont l'accès à l'Internet et qui nous écoutent, je vous invite à aller dans les forums de citlan.net pour regarder l'icône de Michael Skywalker, parce que je vais faire référence à un concept abandonné un petit peu plus tard dans la chronique, et puis c'est par rapport à ce Jedi-là que je vais faire une référence.
Ok. Ensuite, il continue. J'ai adoré ce film et je l'aime autant encore plus aujourd'hui. Peut-être que le fait que le plus lointain souvenir de Star Wars que j'ai à la mémoire, c'est lorsque j'avais environ 3 ans. Je me souviens d'avoir observé à la TV Luke voyant Yoda mourir. Bien avant que je devienne fan, cette image m'était toujours restée à l'esprit. Je savais que c'était un des points importants du film. Aujourd'hui, j'en prends d'autant plus conscience, car c'est à ce moment précis que Luke se retrouve le dernier fidèle de l'Ordre Jedi. J'ai toujours adoré certaines scènes, et plus spécialement celle du Yoda, où Yoda meurt, vous aurez deviné. Celle où on voit Yoda, Obi-Wan et Anakin se tenir devant Luke à l'état spectral, mais aussi lorsque Luke fait face à l'Empereur et résiste au Dark Side, lorsqu'il réalise que sa destinée est maintenant bien près de celle de son père. De même, avec du recul, je ne parviens pas à comprendre pourquoi certains fans ne l'aiment pas. C'est pourtant dans ce film que l'on voit la plus grandiose bataille spatiale, dans laquelle on voit pour la première fois un vrai Jedi en action, Luke affrontant Vader, dans le meilleur duel de sabre et de parole, qui nous a été de voir, dans lequel la victoire finale est acquise, mais non pas par peine et misère. Dans lesquels on voit enfin l'Empereur en personne agir et nous montrer son pouvoir, non pas seulement par la force, mais aussi par la manipulation.
Bien, c'est dans ce film qu'on voit l'Empereur se planter.
C'est ça. Bien que je sois d'accord sur le fait que ce ne soit pas le meilleur épisode de la saga, ce n'est certainement pas le pire.
Episode 1.
Ouais. Épisode 1. J'ai beaucoup aimé Luke de ce film, plus imposant, plus sûr de lui, plus charismatique. Rien à voir avec le garçon de la ferme de A New Hope. Et il nous arrive après un entraînement rigoureux et avec une aura de puissance grandissante. Il sait où il s'en va et ce qu'il doit faire pour y parvenir. On y voit l'évolution finale pendant le duel avec son père. Il y a bien quelque chose qui me chicote vis-à-vis de ce film. J'aimerais bien avoir des articles de collection à l'effigie de Revenge of the Jedi, Mais à ce qui paraît, c'est pas dans tous les coins qu'on peut en trouver. JJM, t'en as déjà eu, toi?
Malheureusement, dans mon coffre-fort, il n'y a absolument rien de...
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a ça. Hein.
Il y en a quelques-uns qui en ont. Bon.
Post-scriptum, je salue tous ceux qui écoutent l'émission présentement et aussi qui l'animent. Merci. J'aurais aimé être avec vous en direct, mais ce n'est pas possible cette fois. Merci de faire de Radio Star Wars en direct. C'est qu'il est par vos efforts et votre participation. Eh bien, merci. Ensuite, prends une petite gorgée.
Ouais, c'est cela. On va en profiter, on va faire une petite pause dans les dires du forum. Et on va parler des concepts abandonnés du Return of the Jedi. Alors, on a abandonné certaines scènes, mais on a aussi abandonné certains concepts qui n'ont pas été tournés. Comme par exemple, des préparations pour Tatooine. On aurait peut-être pu voir Chewie et Lando rentrer dans le palais de Jabba en essayant de lui offrir un extracteur d'épices d'Urelien. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné parce que Twitou et Atetou, deux Jawa, n'étaient pas disponibles pour le tournage. Malheureusement. Un concept abandonné qui a été repris dans le Special Edition, par contre, et qui a été quelque peu modifié avec Coruscant, c'est la planète Abaddon, qui était en fait...
Comment ça s'écrit,
ça? H-A-D-A-B-B-A-D-O-N.
Abaddon. Abaddon, c'est vrai que ça ressemble à ça.
Fait que cette planète-là, c'est une planète-ville qui était la planète capitale, la planète mère du système de la galaxie. Okay. Et sous tous les niveaux de ville de cette planète-là résidait la salle du trône de l'empereur les premiers concepts de Ralph McQuarrie, c'est ça, une salle entourée de lave vraiment dans les bas-fonds où est-ce que c'est encore la planète est encore un peu elle-même.
Puis là je vous dirais d'aller écouter tel Star Wars en direct parce qu'on en parle, mais je me souviens plus c'est lequel.
C'est ça, on en avait déjà parlé. Vous pouvez toujours aller voir sur le site officiel si vous voulez voir l'image, mm-hmm. parce qu'elle n'est pas sur le site de Ralph McQuarrie, malheureusement. Wedge qui panique. Ça, c'est un concept qui a été abandonné, puis d'ailleurs, je pense qu'ils ont bien fait, parce que comme ils mentionnent dans le Insider, c'est pas quelque chose qui aurait été bien reçu des fans de Wedge.
Ok.
Voir Wedge qui panique parce que, à la base, la navette Tidyrium était supposée être escortée par un TIE Fighter qui avait été volé, tout comme la navette elle-même.
Okay.
Et c'est Wedge qui pilotait la navette.
Okay.
En sortant de l'hyperespace, il a un petit peu perdu le contrôle. C'est là que Leia est intervenue en faisant presque sauter son caméo, puis elle a réussi à le ramener à l'intérieur de la baie de la navette. Ça a été très juste.
Mais un TIE Fighter, ça rentre pas dans la navette.
C'est ça que je comprends pas dans leur point, mais c'est peut-être juste qu'il s'est éjecté.
Ah, okay, qui s'est éjecté.
C'est ça. Parce qu'il paniquait, parce qu'il perdait le contrôle, fait qu'il s'est complètement éjecté. Donc, faudra qu'on regarde si on voit pas un TIE Fighter qui s'écrase sur...
Sur l'exécuteur,
quelque chose comme ça. Et oui, Bib Fortuna, ça devait être le grand sorcier de Hoth. Alors, les premiers concepts de Bib Fortuna étaient un grand homme sombre avec une cape noire, une cape sombre, un chapeau pointu et une longue barbe.
Un petit Gandalf,
c'est exactement ça. Gandalf le noir. Une chose qu'on a entendu parler dans le livre, mais qu'on n'a pas vu dans le film, c'est Jabba qui parle avec Luke et qui dit... J'ai déjà tué plusieurs Jedi tout comme toi. Fait que tu me fais pas peur. Bref, on sait que les Hoth et les Toydorian, les Mind Tricks ne fonctionnent pas sur eux. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont dû en tuer plusieurs. Mais là, c'est parce que j'essaie d'imaginer un Hoth qui court après un Jedi, tu sais. Je sais, ok, peut-être qu'il est tombé dessus, là. Il est mort par suffocation, quelque chose de même.
Mais ils sont sûrement pas tous gros comme Jabba, là.
Ben, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, ils sont pas mal tous gros comme lui. Alors,
fait dans la même catégorie, ouais.
Ouais, encore dans la même catégorie. La fameuse réunion des rebelles aux côtés de la planète Sulluste, mm-hmm. qui est la planète de Nienna.
Le point de rendez-vous.
Elle était supposée avoir lieu dans la ville de Simon, comme Mon Mothma.
Ok.
Donc, c'était peut-être voulu ainsi.
Mm-hmm.
On se souvient tous de la fameuse scène où on voit Akbar qui dit le shield est encore opérationnel, ça a pas marché comme on voulait.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, vite, on se pousse dans le secteur 47. Oups! Des destroyers, qu'est-ce qu'on fait? On attaque. Ben, en fait, le fameux amiral Akbar, il était décrit comme étant un non-humain avec une peau de couleur bleu pâle dans, oh, dans les premiers scripts.
Ça fait comme un schiste pas mal.
Ça fait comme un Grand Admiral Thrawn.
Ouais.
Son nom était d'ailleurs le Grand Admiral Prawn.
Prawn?
Ouais.
Un P au lieu d'un T.
Un P au lieu d'un TH.
Oh.
Attention. C'est quand même intéressant.
Donc, l'idée de Timothy Zahn a peut-être été volée à ça.
Elle a peut-être été reprise à quelque part, effectivement. Ouais. Quand Leia arrive au village Ewok, on n'a jamais vu ces scènes-là. Mais c'est parce que la scène voulait que Lou Gray hypnotisait Leia, puis se mettait à lui regarder les dents, les oreilles, les pupilles, pour vérifier si elle était en santé ou si elle était comestible.
Ouais, si c'était comestible. Pas
un des deux. La balance de la force. Car tout revient, tout se rebalance à la fin du retour du Jedi. Tout se rebalance-t-il vraiment? On le sait seulement si on lit un peu l'univers étendu, puis on se rend compte que pas tout à fait. Mais dans l'univers de George Lucas, ça revient que, bon, tout est bien qui finit bien, tout le monde est heureux, et justement, l'empereur meurt, etc. Mais au début, le concept était que, dans la fameuse salle du trône sur Ad Abaddon, on voyait Luke qui était fait prisonnier par Vader, qui se ramassait là enchaîné, et Obi-Wan refaisait une apparition.
Oh mon dieu.
Il venait le libérer.
Il était pas mort.
Il se réincarnait, je sais pas trop, il vient le libérer, puis Yoda apparaît seulement en fantôme, dit, je vais faire qu'est-ce que je peux pour vous aider, et on va combattre l'empereur, puis on va défaire l'empereur.
Oh mon dieu.
Fait que là, s'en suit un combat, puis pendant le combat, l'empereur envoie des éclairs à Obi-Wan. Luke fait un espèce de bouclier de la force invisible, puis à tous les endroits où les éclairs de l'empereur touchaient le bouclier, on était supposé voir le visage de Yoda apparaître.
Ouf.
Mais ça, c'est un concept qui a été...
un petit peu avancé dans la technologie pour le temps, peut-être.
C'est ça. Finalement, ça a été abandonné parce que George a décidé que c'était mieux de montrer Luke qui apparaissait, qui combattait son père un contre un. Ça faisait vraiment plus grand. Puis en fait, il se bat mentalement contre l'empereur en même temps. Là.
OK.
Alors,
j'avoue que...
C'est ça.
Et on est rendu...
Il en reste deux dans la catégorie. Alors, l'avant-dernier... Un qui aurait été vraiment très drôle, là, on se souvient de Han Solo qui essaye désespérément d'ouvrir les portes arrière de la base
du bunker.
Sur Andor, du bunker. Une de ces tentatives-là, la fameuse idée qu'il y a eu en regardant le AT-ST, là, ça a été d'accrocher en fait un fil avec un gros aimant aux portes, puis de partir avec le AT-ST pour essayer d'ouvrir les portes en les faisant défoncer. Ça n'a pas marché, le derrière de l'AT-ST a décroché, puis il reste en place. Fait que finalement, c'est pour ça qu'il a pris la deuxième idée, puis qu'il a décidé d'appeler à l'intérieur, puis de dire, écoutez, ces beaux sont partis, envoyez des renforts.
OK.
Et on revient au Moff Jar-Jarad. Jar-Jarad. Jar-Jar.
Jar-Jar, Jar-Jar.
Ouais, c'est ça. Mais faut dire que ce Moff-là devait pas être très, très brillant, parce que une des choses qu'il a décidé de faire, c'est quand il a vu que la bataille, elle s'en venait assez... Blanche, assez élevée, ben il a dit on revire la Death Star puis on tire sur Endor. On va tuer le monde qui est sur Endor. Parce qu'Endor était supposé être une planète qui était en train de se faire développer, pas pour rester une planète comme ça, une planète verte. Là. C'était supposé devenir une planète ville un peu comme Coruscant, mais pour l'Empire.
Okay.
Puis ils ont décidé de retourner la Death Star puis tirer sur Endor pour annihiler complètement la résistance rébellion qu'il y avait en bas. Finalement, il n'y a pas eu le temps.
Sauf qu'il me semble que la Death Star était relativement proche.
Ouais, c'est ça.
Ça aurait fait du dommage, pas mal.
Mais rendu là, il était rendu suicidaire, je sais pas trop. Mais finalement, ça n'a pas marché. L'exécuteur s'est ramassé dans la Death Star avant.
OK.
Juste avant. Un peu comme on voit la Proton Torpedo dans Star Wars qui explose juste avant qu'il ait le temps de tirer sur Yavin.
Exactement. Bon, on retourne au forum. Ensuite, c'est Darth Solo. Non, c'est pas Dark Solo, c'est Fad Lapouette qui répond. Ensuite, lui répond à la sortie originale de Return of the Jedi, j'étais, disons, très petit. bien que je l'ai vu qu'une fois à la télé, le massacre de V2 par Luke m'avait marqué. Je croyais que ce dernier se transformerait en robot petit à petit. Bien que j'aime le film, ce n'est pas mon préféré, et comme l'a fait remarquer une revue, c'est à ce moment que Lucas a sacrifié un peu d'intégrité pour le marketing, c'est-à-dire les Ewoks. Et ça s'est continué avec Jar Jar Binks. Cependant, la présence de l'Empereur est une excellente raison de regarder le film. Il incarne le diable en personne, et il est plus convaincant que V2. Ce serait intéressant de voir sa présence dans l'épisode 3. Les plus vieux pourraient me le confirmer. Il paraît qu'en 83, les gens étaient au bout de leur siège et ils criaient « Lance-le, lance-le! »
J'avais 3 ans, je me souviens pas, mais je m'en souviens pas. Sincèrement, là, j'étais trop jeune.
En tout cas, moi aussi que j'étais, ils le disaient pas.
Ils le disaient pas.
Non.
Oui, ben, c'est bien, Fat de la Boîte nous amène à un point quand même pas pire. 5 raisons pour lesquelles Jedi est pas le film préféré des fans. Justement, ben, la première, les Ewoks.
Ok.
L'équivalent des Tribbles de Star Trek pour nous, c'est les Ewoks. Des petites boules de poils qui courent partout et qui font un ravage total. La deuxième, c'était bien sûr les fameuses. Les sacs popettes, là, comme qu'on disait plus tôt. Marionnettes.
Les marionnettes.
Les marionnettes, okay. Ben comme. Okay. Delicious Crumb.
Ok.
Entre autres. Il n'y a aucun héros qui meurt. Quoique le Lando avait été peut-être supposé mourir.
Il y a Yoda qui meurt.
Il y a Yoda qui meurt, mais c'est pas une mort héroïque. Donc,
c'est une mort sage.
C'est ça. Puis à ce moment-là, on le trouve pas trop héroïque. Parce qu'on l'avait jamais vu avant dans l'épisode 2. Donc,
c'est pas une grosse figure d'admiration, le gros personnage.
Non, c'est plutôt un petit personnage. Hein? À peu près 3 pieds de haut. Mais il y a quand même un grand personnage qui meurt, puis c'est chiant pour beaucoup d'entre nous.
Vader.
Non, même pas.
Boba Fett.
Eh oui, exactement.
Ah ben oui. Hein?
Eh oui, donc Boba Fett meurt dans Return of the Jedi. Mais non, il ne meurt pas. Il réussit à se sortir du ventre du Sarlacc grâce à son pack d'essence, etc.
Exactement.
Et les burp jokes.
Les burp jokes.
Les jokes
de pipi caca poil.
Exactement. Pipi caca fesse poil. Écoute, la grenouille qui rote après avoir mangé son insecte sur Tatooine. Le Sarlacc sur Tatooine qui rote après avoir digéré, après avoir avalé Boba Fett. Bref, ces 5 raisons-là font que c'est pas le préféré des fans.
Ok, ensuite, dans le forum encore, Dart Solo répond, je me souviens de la première fois que j'ai vu Return of the Jedi quand j'étais gamin. Quand j'ai vu V2 pour la première fois, sans son masque, j'étais surpris de voir que c'était un vieil homme mutilé. Je me disais comment ça se fait qu'un vieil homme pouvait être autant dévoré par le mal. Et aussi en voyant Anakin fantôme à la fin de Return of the Jedi, j'ai demandé à mon père, c'est qui lui? Souvenir quand tu nous tiens. Il répond par ça. Ensuite, Obsidian 7 répond, Return of the Jedi est pour moi le film des images fortes. La principale est Luke, à deux moments surtout, lorsqu'il apparaît dans le palais de Jabba et au moment où il est livré à Vador sur Endor. Je ne suis pas un fan de Luke, mais là, c'est un grand Jedi. Le visage de Palpatine quand il électrocute Luke. Il a de grands éclairs bleus partout. Et c'est pourtant ce sourire malsain qui nous captive. Les Ewoks qui meurent. On voit ces ridicules boules de poils tristes. Et c'est pour moi le seul moment où elles apportent beaucoup à l'histoire. Un peu de tension dramatique. Quand ils se jettent dans la bataille où ils ont de grandes chances de se faire déchiqueter. On a presque l'impression qu'ils rigolent. Mais là, ces gamins ont compris que c'était la guerre. Et on le ressent. Revenge revient encore. Je suis de retour sur le sujet car j'avais autre chose à ajouter. C'est vrai que Empire Strikes Back comporte plusieurs scènes qui ne s'oublient pas comme la vue de plusieurs Star Destroyers naviguant dans l'espace sous la musique de la marche impériale et plusieurs autres. Mais Return of the Jedi comporte aussi des scènes inoubliables comme l'arrivée de Vader et celle de Palpatine avec un nombre incroyable de soldats réunis à bord de la Death Star. Il ne faut surtout pas oublier la navette Tidirium.
C'est avec deux Y. En passant.
Tidirium?
C'est Tidirium et pas Tidirium.
Ah.
Tidirium Shuttle.
Mais je pense qu'il l'écrit comme faux, moi. Il y a aussi un moment très touchant lorsque Yoda rend l'âme et ce petit drap tombe sous la disparition du vieux maître Jedi. J'ai fait mention dans mon premier post du palais de Jabba, mais je voudrais pas terminer sans reparler de la scène du bûcher lorsque Luke incinère l'armure de Vader. Avec la musique, c'est tout simplement incroyable. J'avoue que...
Alors, je vais m'excuser, je vais me rectifier, ce n'est pas avec deux Y, mais avec deux I. C'est T-Y-D-I-R-I-U-M.
Ah! Bon, ok, tu peux continuer, on va aller dans l'autre forum en attendant.
Et pour... si quelqu'un ne semble, n'est pas d'accord avec moi, je vous conseille d'écrire à l'Insider. Parce qu'ils ont fait une faute de typo, mais il me semble bien que c'est avec deux I, ça vient de la leur.
Je pensais que c'était avec mes grecs, moi.
Bref, les 9 lignes les plus mémorables de Return of the Jedi, je pense qu'on va les dire dans leur version originale parce que c'est là qu'elles ont tout leur sens. C'est vraiment, vraiment bon là. C'est, il y en a une, la première, c'est au début, quand Vader arrive sur la Death Star et parle avec Jar Jarad et lui dit « Faut que ça aille plus vite parce que « The Emperor is not as forgiving as I am. » Ça, ça fait petit frisson dans le dos. « Ok, je vais me crouiller le cul. » L'autre, ensuite, « This bounty hunter is my kind of scum. » Phrase fameuse dite par Jabba à Bush qui décide de négocier sauter, ouais, le prix de Chewbacca avec un thermal detonator,
mm-hmm,
qui peut être mépris pour une orange par certains fans lors de dîner et de brunch.
Tu parles par expérience, j'imagine?
Non. Faites attention quand le petit bout de brun part, là. Lancez-la puis courir. La troisième, c'est plus un petit bout de dialogue. C'est Anne et Luke qui parlent ensemble. Anne qui dit à Luke, How are we doing? Same as always. That bad, eh? Ça, on s'en souviendra toujours. La quatrième, très insultante pour le pauvre petit Luke. When 900 years old, you will reach. Look as good, you will not. Elle faisait peur, celle-là.
Ouais.
C'est là qu'on apprend l'âge de Yoda puis qu'on se dit, Wow, tout un bonhomme. Peut-être temps qu'il fasse dodo, là. C3PO, it's against my programming to impersonate a DT.
Quoi?
DTI.
DTI.
Mais quand il essaye de... Quand ils disent, tu peux pas faire... Tu peux pas prendre tel rôle. Il dit, non, je peux pas parce que... Mm-hmm. Mon programme le veut pas, là. C'est, okay. J'ai pas le droit.
Ok.
And short help is better than no help at all. Parlant bien sûr des
Ewoks.
Tu sais, mets tout ensemble, tes garoches en bas, ils vont faire trébucher les autres. Là. On s'y rentre. Your overconfidence is your weakness. Luke s'adresse à l'empereur.
Mm-hmm.
Lando, well, we'll last longer than we would against that Death Star, and we might just take a few of them with us. Quand, que, bien sûr, ils se rendent compte que le bouclier est toujours actif sur l'étoile de la mort, il se trouve à se revirer de bord, puis il s'attaque au Star Destroyer.
C'est qui moins pire que la Death Star, dans le fond?
C'est moins pire, puis en plus de ça, tu te sers de tes ennemis comme bouclier.
Mm.
Bref, ça aide.
Je pense pas que ça aurait empêché l'empereur de dire shooter dans le top.
Ben, on a vu qu'ils se sont débarrassés de la frégate médicale. Donc, mm-hmm, rest in peace 2-1-B. Il s'est fait tuer, écoute. Là, il était blown apart. Et la plus mémorable, bien sûr, Luke s'adressant à l'empereur en disant I'm a Jedi, like my father before me. C'est donc...
C'était les meilleurs...
Les lignes les plus mémorables, okay, de Jedi.
On en retourne. On a quelques-uns, là.
Quelques-uns?
Ouais. Bon, ok, le premier qui répond, c'est Barst. Ben, je parle ici, je suis rendu dans les forums du nouveau site. StarWarsDirect.com, SWDirect.com. Barst répond, effectivement, Return of the Jedi est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma, et même le premier tout court. Mes souvenirs concernent surtout l'amitié de Léa avec les Ewoks et le fait d'avoir été triste qu'il y en ait un qui meurt sous les coups de Stormtrooper. Ensuite, il y a aussi la bataille spatiale d'Andorre qui m'en avait mis plein les yeux. L'autre scène mémorable est le combat sur la barge de Jabba avec Anne et Chewie. Surtout Anne qui voyait que dalle, qui voyait rien, mm-hmm, et qui tirait un peu au hasard. Je n'avais que 6 ans et les autres aspects ne m'ont pas profondément marqué à l'époque. Ensuite, Kid Fisto. Il y a un grand extrait de Clerk, je crois, oui. Chasing Amy. Return of the Jedi était le deuxième film Star Wars que j'ai vu. J'avais 4-5 ans. Je m'en souviens d'avoir pensé, wow, toutes les aliens dans le palais de Jabba. Et Luke is a crazy cool Jedi. depuis ce moment, j'ai toujours voulu une figurine de Luke tout en noir. Return of the Jedi est un très bon film. Il y a certains qui trouvent des problèmes avec la moralité des rebelles dans ce film. Pour donner un exemple de cet argument, ceci est un extrait du script de Clerks. Est-ce que je lis le script de Clerks?
Oui, on peut le lire. C'est en... okay. Pour que le travail de la deuxième étoile noire soit fait assez rapidement, ils ont engagé tous ceux qui leur paraissaient capables. Donc, tu vois, les troupes d'assaut sont en train d'installer les chiottes. Ils savent que tuer. Et Dante qui répond, d'accord, donc ils engagent des travailleurs indépendants. Qu'est-ce qui te choque? Randall, tous ces innocents se font tuer. Les hasards d'une guerre n'étaient pas leur image. Tu es couvreur. L'État te propose un contrat futur. Tu as une femme, des enfants, un pavillon de banlieue et un contrat avec l'État qui te rapporte. Et puis arrivent les gauchistes qui font tout sauter à tous les milles à la ronde avec leur laser. T'aurais pas demandé ça, toi? Tu fais pas de politique. T'essayais juste de gagner ta vie.
Et puis fini, il y a toujours la parabole avec le fait que Darth Vader représente l'homme noir et que Lucas veut démontrer que toutes les personnes noires peuvent être blancs. Vous avez seulement à voir Chasing Amy pour voir ce monologue en entier. Ensuite, Snowtrooper répond, que de beaux souvenirs cela me rappelle. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont vu en 1983 et je dois dire que c'était quelque chose. Ma mère m'a permis de ne pas aller à l'école le jour de la sortie du film pour que l'on aille voir la première représentation du matin au cinéma du Maï Champlain à Brossard. Quelle est ma partie favorite? Je dois dire que je les aime toutes, mais j'ai un faible pour le palais de Jabba avec toute cette créature. Return of the Jedi nous a aussi fait connaître certains des plus beaux personnages et vaisseaux de toute l'histoire de Star Wars. Shuttle, Skiff, Speederbike, B-Wing et tous les autres que j'oublie. Pour ce qui est des personnages comme les Biker Scouts, Imperial Guard, Empereur, Mon Calamari, Jabba et bien d'autres encore, qui ont marqué à jamais mon imaginaire et qui font de Return of the Jedi un de mes Star Wars favoris. Je l'ai regardé cette semaine et je dois dire que ce film a quand même très bien vieilli et je me souviens qu'à l'époque, il était un film avec les effets spéciaux révolutionnaires, comme l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on peut dire qu'il mérite sa place dans les rangs des films cultes. Longue vie à Return of the Jedi, longue vie à Star Wars. Et c'était Snowtrooper. Ensuite, Dark Jedi répond, moi c'est le deuxième film de Star Wars que j'ai vu au cinéma et je me rappelle de la file d'attente qu'il y avait pour aller au cinéma impérial. La première fois que j'ai vu le Rancor et le Sarlacc, j'ai vraiment trippé. Et que dire du duel final en Luke et Vador? Trop nice. Au moment de sa sortie, à l'âge de 8 ans, je trouvais que Jedi était le meilleur film de Star Wars, mais aujourd'hui, mon opinion est différente. Il demeure un excellent film, mais pas à la hauteur de Empire Strikes Back. Ensuite, Kamikaze répond, moi j'ai vu ce film après les deux autres au cinéma, que j'avais vu en programme double. Ce que je me souviens, c'est que je l'attendais avec impatience. Moi et mon papa étaient arrivés presque 2 heures en avance et j'avais regardé des bouts du film à travers le hublot de la porte du cinéma. Ah ah, c'est pas bien ça. Je crois aussi qu'il a été longtemps mon préféré. C'était celui le plus orienté pour les enfants avant l'arrivée de l'infâme prélogie. Et ensuite, Dals qui répond... moi, j'ai vu l'épisode 4 en 97 lors de l'édition spéciale. J'avais 10 ans. 6 en 97 lors de l'édition spéciale. J'avais 10 ans. Bien sûr, j'avais été soufflé par l'épisode 4, mon premier Star Wars, et malheureusement, j'étais trop jeune pour me souvenir de mes sentiments. Mais je suis sûr d'avoir été bouleversé par la bataille d'Endor. Je me souviens surtout de ne pas avoir bougé de mon fauteuil complètement captivé. Depuis ce jour, j'ai toujours des frissons. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Si j'avais été plus vieux, j'en aurais plus à dire. Ensuite, moi j'ai vu. Ben Raven répond. Moi j'ai vu le film en 83. J'avais presque 10 ans. Je crois qu'on l'avait vu avec Empire Strikes Back dans un cinéma minable à Sherbrooke, le Belvedere 2, qui lui avait une poutre dans le milieu de la salle. Pour corriger Raven, en fait, en 83, on l'a vu, le film seul, c'était au cinéma du Carrefour de l'Estrie, à Sherbrooke. Et puis lui, le programme double, c'est celui de A New Hope et Empire Strikes Back, qui était vraiment au Belvedere 2 avec une poutre dans le milieu. C'est une petite salle minable.
C'est brillant, ça.
Exactement. Mais c'était vraiment une petite salle, c'était vraiment une salle secondaire, là.
Okay.
C'était à peu près gros comme quand on a été chez Tribal, là.
Ah ouais, ok.
Ouais, c'était un petit écran de rien, là. Ce que j'aime de Return of the Jedi, la meilleure bataille spatiale de la saga, bien sûr, jusqu'à date à ce moment-là, le combat Vader versus Luke, la rédemption de Vader, les speeder bikes sur Endor, Luke qui tient sa promesse à Yoda et revient sur Dagobah, la célébration finale dans l'édition spéciale, enfin l'empereur. Léa en bikini, avec un gros smile, très marquant. Ce que j'aime pas de Return of the Jedi, les Stormtroopers qui se font massacrer par les Ewoks. Mais je peux comprendre, c'est pour les enfants.
Avec okay. un gros smile tout triste.
Exactement.
Et fâché.
Le Sarlacc édition 97.
avec le bec et les...
Ouais, c'est ça. Max Reboben qui a changé. Dans l'édition 97. D'ailleurs, on va vous faire entendre tout à l'heure
la version originale,
du Max Reboben, la chanson qu'il faisait sur la vieille édition, qui est plus disco au lieu d'être rock, comme la nouvelle. Et puis Boba Fett qui cruise les danseuses. Ça, c'était un des mêmes commentaires que...
Mais pourtant, c'était le bon, ce commentaire-là.
Le plus gros changement pour moi entre les deux versions, c'est le thème final. Je sais pas encore lequel j'aime le mieux. Le nouveau est plus orchestral, mais c'est dit mal avec le thème Star Wars du générique. C'est vrai que le nouveau, ça coupe trop carré.
Ouais.
Et puis l'ancien parce que c'est l'original, nostalgie, et ça fait fit mieux. Il s'imbrique mieux,
ça fait mieux que la célébration du village.
Ouais, exactement. Ensuite, le dernier. Je crois que c'est le dernier.
Ouais.
Ouais. Ok, le nom de page. Non. Mort l'attaque. C'est le nom de l'usager. Pour moi, après un an, après Attack of the Clones, je pense toujours que Return of the Jedi est le meilleur épisode selon moi. Oublions nos Ewoks. Je l'ai loué à toutes les semaines la cassette au club vidéo. Et j'ai bien dû le voir 300 fois lorsqu'il a passé la toute première fois à super écran en français. Bien que je l'ai enregistré et voilà que je le regardais à tous les jours. Ce film m'a marqué et côté effets spéciaux, celui-ci dépassait encore largement plusieurs nouveaux films qui voient le jour présentement. Je parle pas de méga-production. Pour moi,
la bataille spatiale à la fin
est écœurante, sans sas, si on pourrait dire en français, et sera très dur à battre. L'exécution de Luke lorsque celui-ci attrape son sabre trop cool, tout est intense dans ce film et c'est bien dans cet épisode que je trouve Jabba le mieux fait. Ben, on le voyait pas avant, si on considérait pas les éditions spéciales. Le mieux fait, où c'est que je suis rendu? Ok.
Des heures et des heures de ce film.
J'adore Empire Strikes Back, mais Return of the Jedi donne à complètement...
Une toute autre dimension.
Je comprends pas sa phrase, mais... Comparé aussi aux autres épisodes, plusieurs personnages meurent, fait Jabba, Vador, Yoda, Empereur, des personnages clés, mais personne ne pourra se douter lorsqu'il regardait ce film pour la toute première fois que tous ces personnages pouvaient mourir à l'écran. J'ai adoré le côté sombre de ce film et le côté un peu enfant également. Et je préfère de loin les Ewoks que les Gungans. J'ai trippé également sur Léa dans le palais de Jabba, trop jolie. En résumé, on reste bouche bée. Dès les premières images, voir une autre Death Star en construction, un chasseur de primes inconnu qui tente de sauver Han, qui se trouve être Léa. Yoda confirme à Luke que Vador est son père, que Léa est sa sœur, la poursuite des Speederbugs sur Endor, qui était tout à fait grandiose à l'époque, et j'en passe, ce film a des défauts. Comme n'importe quel autre film, selon les goûts et les jugements de certains. Et je crois que j'en ferai un plaisir de, J'en ferai un plaisir ce soir de sortir mon laserdisc et de me le taper encore une fois.
Fait qu'on va, profiter du pause de Mort d'Attaque pour vous demander, s'il vous plaît, quand vous écrivez dans nos forums, puis que vous savez qu'on va les
ponctuer.
Lire pendant l'émission, ponctuez et soignez votre orthographe. Parce que
c'est dur à lire.
Pauvre Danny commence à avoir de la misère, là.
Et voilà, c'est les commentaires du forum. Maintenant, nous autres, on a-tu des commentaires?
Ben moi, je me souviens, j'avais 3 ans, c'est le premier film que mon père m'a emmené voir au cinéma. Après ça, c'était les reruns de E.T. Au château, au coin Saint-Denis, et je sais plus quelle rue, je pense que c'est Jean Talon ou c'est Bélanger. Mm-hmm. Puis là, maintenant, c'est plus un cinéma. L'autre église, dans le côté, je sais pas trop quoi. Puis, non, c'est ça, je me souviens que j'avais été ému par les Ewoks. Qui mourait, évidemment. J'étais triste, mais je me souviens pas énormément du film. Je me souviens quand par la suite, il y repassait à peu près à chaque année à Radio-Canada, on les regardait, puis on retournait dans la cour d'école le lendemain, puis on arrivait là, puis on faisait les Jedi et puis les Sith. Là, c'était drôle à voir. C'est pas mal ça que je me souviens. J'avais quand même 3 ans. Donc,
c'est bon, si t'avais 3 ans.
C'est mes premières mémoires. Là, c'est pas.
Moi, c'était. Ben, j'y avais été à Craven, là. Ben, pas le premier. Le premier, je me souviens vaguement. A New Hope, c'était au cinéma Belvedere à Sherbrooke, qui n'existe plus. Le Empire Strikes Back aussi, ainsi que le programme double. On l'a vu au Belvedere, qui n'existe plus. Return of the Jedi, c'était au Carrefour de l'Estrie. Je me rappelle l'avoir vu 3 fois. La première, ma mère, elle nous avait accompagnés. Mais les deux autres, j'avais 11 ans, en 83, et puis... je pense que c'était dans les premiers films là, que j'y allais tout seul. Là. J'avais dit j'y vais, là, fuck, j'y vais quand même. Puis j'avais été le voir tout seul avec mon frère ou avec des amis. Là. Je me souviens plus trop exactement. Je me rappelle avoir eu des jouets en masse là, de Return of the Jedi. Ça, c'est l'évidence. C'était comme. Il était fort là, dans ce temps-là, le film. Puis moi, mes scènes préférées, ben, il y a le duel que j'ai beaucoup aimé. Là, le duel de Vader.
À la fin, la scène finale.
C'est la scène finale, vraiment, puis la bataille. Là, tout ce qui se passe à la fin, là, la bataille spatiale plus...
La scène du combat entre Luke et Vader m'a beaucoup marqué parce que jusqu'à ce que j'ai à peu près 7-8 ans, j'arrivais juste à me souvenir du film jusqu'à cette scène-là. Je me souvenais plus de la fin.
OK.
Pour moi, le film finissait là. Vader se faisait couper à main, il lançait l'empereur, puis là-dessus, j'arrivais pas à me souvenir de la fin.
Mm.
C'était comme la rédemption d'Anakin Skywalker. Je trouvais ça quand même assez...
Songé.
Assez songé, c'est ça, c'était bon. Un autre souvenir que j'ai de Return of the Jedi, mais c'est pas de 1983, celui-là, c'est de 1997. C'est que j'ai été le voir un soir avec nul autre que notre cher ami José Goulet de chez Legends. Alors, on est allé voir ça avec la petite gang de chez Legends, puis c'était vraiment drôle. Puis c'est là que j'ai fait remarquer à notre ami José, les Stormtroopers qui se font balader par la foule sur Coruscant à la fin du générique. Il l'avait pas encore vu à ce moment-là. Okay. C'est un des films que je suis retourné voir très souvent. Moi, ça reste mon film préféré.
Moi, je le sais pas. C'est quoi, à part les deux premiers, à partir de Return of the Jedi, tous les films Star Wars, je les ai vus 3 fois. Je sais pas pourquoi, là. 3 fois. Mais
les
c'est
deux
comme...
premiers, t'es vu?
Non, A New Hope une fois, là, j'étais trop jeune, c'est mes premiers
années. Ok, je pensais qu'on parlait des épisodes.
Non, mais les éditions spéciales aussi, j'y étais voir 3 fois chaque.
Ok.
Et puis, mais en 97, je me souviens qu'on y avait été avec mon cousin. Ah, je me souviens même plus c'est quel cinéma, puis c'était en 97. C'était à Montréal. Je crois que c'était Côte des Neiges.
Webcam.
Ok. Je crois que c'était Côte des Neiges. C'était assez cheap comme cinéma, là, mais. Je crois que c'était là. On avait été aussi au cinéma Pine à Sainte-Adèle. Wow. Le son était écœurant, là.
Ben,
parce que s'il y avait des bancs là, hallucinants.
On a parmi nous une des premières personnes qui l'a vu en THX avec, avec le cinéma impérial.
Ah, c'était quelque chose. La première fois que je rentrais là, waouh, hein, tu sors de là puis waouh, le son là-dedans, c'était. C'est quelque chose.
Mais l'auditorium, il est fait pour ça aussi, pour le
c'est
son.
Ça. Exactement. C'est dommage qu'il n'y ait plus de film à cette salle-là.
Ben, d'ailleurs, l'Impérial est en rénovation présentement.
Ah, ça je savais pas.
Puis il y a le festival de films Fantasia va revenir cette année, pas à l'Impérial malheureusement, parce que les rénovations sont probablement pas terminées à temps. Ça fait déjà un an qui est un petit peu plus d'un an qui est en rénovation, mais de ce que j'ai entendu de mes sources à l'interne, ça va être un changement assez assez frappant. Donc, j'ai bien hâte de retourner dans.
Faut pas qu'il détruise trop le décor. Là.
Non. Ça je pense ça va rester que... tel quel. Mais je regarde là.
Peut-être les bancs. Là.
Les bancs.
Non, mais les derniers bancs qu'il avait mis pour le dernier Fantasia, parce qu'ils ont été rénovés en 2000, je pense, les bancs.
Ok, c'est pas.
Ils étaient rendus assez confortables. C'était des bons bancs de cinéma. Là. C'était vraiment bien. Par contre, à Fantasia justement, parce que j'ai travaillé comme co-stage manager. On voyait les speakers, puis ça n'avait plus de bon sens. Là. La rénovation était là, entre autres. Il y a des rénovations qui sont faites à la climatisation. C'est ça qui est un des gros.
C'est bien.
Un des gros problèmes.
Puis c'est quoi tes scènes préférées, Jocelyn?
Ah, moi, c'est la bagarre entre Luke et.
Vader.
Et Vader, quand il dit que c'est une sœur jumelle, puis là, Luke se. Des chaînes,
Never!
La musique, la chorale en arrière, là. Ça reste au meilleur bout.
Mais d'ailleurs, cette scène-là, on en fait référence dans la chronique, parce qu'on remarquera que qui est-ce qu'il y a entre ses mains Darth Vader? Ben, le sabre de Luke. Le sabre de Luke se téléporte dans la main de Luke.
Hein?
Eh oui! C'est pas la première fois qu'on le voit se servir de la force pour appeler à lui son sabre laser, mais. Quand on regarde bien dans le film, on voit que Luke, que Vader s'approche du dessous des marches où se cache Luke avec le sabre de Luke dans ses mains.
Fait qu'il y a les deux sabres.
Puis, quand il parle de sa sœur justement, puis tu vois
Luke, sable, là,
qui repart avec, mais on voit qu'il pogne, que son sabre s'allume, puis qu'il repart avec.
J'ai jamais remarqué ça.
Le sabre part très très vite de la main de Vader à Luke. Là. Mm-hmm. C'est vraiment une démonstration des pouvoirs du côté obscur de la force.
Toi, Jonathan, as-tu des scènes préférées? Moi,
je vais dire un terme, je connais pas du tout les termes. Là. La scène qui m'avait vraiment marqué, c'est la scène où Jabba the Hutt est tué, là, tu sais, quand ils sont dans le désert avec le. Comment ça s'appelle, là?
Le Sarlacc.
Ben, c'est ça. Ça m'a traumatisé. Même d'ailleurs, je voyais dans un club vidéo, à chaque fois, je le remettais, là, je servais plus de clients juste pour regarder cette scène-là. Là. Je me suis toujours demandé où se ramassaient les gens qui se ramassaient, justement, dans sa bouche ou n'importe quoi. Ça et la scène de la bataille de la fin, c'est certain, là, ça, c'est.
Anatomie of a Sarlacc, il va falloir qu'on refasse ça.
Vous avez déjà fait ça?
Non, ben.
En petit groupe de discussion, si tu veux, c'est des choses qui se discutent quand même pas mal.
C'est peut-être ma grosse question philosophique sur Star Wars, c'est ça, c'est où se retrouvent ces gens-là?
Ben, ils se font digérer pendant 1000 ans. C'est ça. Ils disent, ils disent Jabba.
T'imagines-tu le tube intestinal de cette bébête-là?
Ouais, hein, c'est, tu peux pas te sortir de là, c'est quoi? Là?
Ah, mais Boba Fett s'en sort, mais dans les livres.
Ouais, non, c'est ça. C'est... On sait qu'il y a certaines bébites sur notre terre qui bouffent des fourmis, un fourmilion entre autres, qui va se cacher dans la terre. Qui va faire un...
Ouais, comme un trou de fourmis.
Qui va faire un trou comme un sarlacc, puis les fourmis vont rentrer dans sa gueule puis se faire bouffer comme ça. C'est un peu ce qu'est le sarlacc, mais le sarlacc fait ça avec les Diobats.
Moi, ça m'avait complètement traumatisé. J'en ai fait des cauchemars, mais ça reste ma scène préférée pareil.
Tu veux plus jamais aller dans le désert juste en cas.
Tu vas te mettre en dessous de mes pieds.
Tu te promènes dans le Sahara puis tu te promènes avec un bâton en avant pour être sûr que tu tombes pas sur un sarlacc pit. Qui se retrouve en général en Tunisie, dans les alentours de la ville de Tatooine.
Bon, continuons. C'était qu'est-ce qui te restait
On peut parler un petit peu des freeze frame fun. Pourquoi faire des pauses quand on regarde Return of the Jedi? Pourquoi est-ce qu'on attend tant que ça les DVD? C'est pour avoir des pauses claires sans tracking problem dans les dans nos écrans. Parce que justement, ben il y a le Django Lando Connection. C'est quoi la connexion entre ces deux gars-là? Ben, vous remarquerez bien comme il faut, la prochaine fois que vous regarderez Return of the Jedi, quand Lando entre dans la salle principale du palais de Jabba, paf, il se cogne la tête. Puis ça laisse une marque sur son casque, un peu comme sur le casque de Django.
Mm-hmm.
Le fantôme de Greedo.
Hein?
Ben oui. La voix de Greedo se fait entendre dans le palais de Jabba. Vous écouterez, c'est parce que Ben Burtt a dû réutiliser les mêmes sons quand il a refait le palais de Jabba, puis il y en a un qui a réussi à il a réussi à remettre la voix de Jump de Greedo dans cette...
Ah bien.
Dans cette...
Il devait avoir un rodien dans la pièce.
Oui,
il a prendre le même...
Ben, il y a Greedo qui est une des danseuses du Maxi Boban. Peut-être une cousine de Greedo. Ouais. Nul le sait. Les Super Troopers puis le Not-So-Super Trooper. Ben oui, c'est que quand les rebelles ont décidé de rentrer dans le bunker sur Endor, mm-hmm. on se souvient qu'il y a un Ewok qui part à courir. Ben que pas un Ewok, que Han Solo
donne une petite tape sur l'épaule,
puis il s'en va, puis le trooper se ramasse face à une vingtaine de rebelles. Ben il y a un rebelle qui s'habille comme étant un trooper avec une barbe. Fait que vous remarquerez que dans les personnes qui se font qui sortent en étant attachées puis les mains sur la tête tout ça, il y a un rebelle avec une barbe, puis quand ils font un pan scan de ceux qui rentrent, il y a un scout trooper merci, avec une barbe aussi. C'est le même acteur, c'est ça, ils ont manqué de casque.
T'as beau manquer de casque, tu coupes la barbe du gars, là.
C'est ça.
Quoi, tu fais dans Star Wars, là.
Souvenons-nous de Biggs. Biggs avait les cheveux beaucoup plus longs au début du tournage de Star Wars. Puis finalement, il s'est fait couper pour une production théâtrale.
Okay.
Donc, de là, le casque sur les autres scènes, en général, de Biggs, pour pas voir qu'il a changé sa coupe de cheveux.
Okay.
Le running gag. Les fameux running gags, comme dans tous les autres Star Wars.
Les blagues, en français, on va dire ça, les blagues...
Les blagues courantes, hein, c'est ça. On parle de la fameuse patate dans l'Asteroid Field de Hutt, dans Empire Strikes Back. Ici, on parle du running shoe d'un des gars de l'équipe des effets spéciaux de ILM dans la flotte à la bataille finale.
Ok, une espadrille.
Exactement. On parle de même ce qu'on voit plus loin dans un autre article du Insider numéro 67, justement, avec ce fameux Ken Ralston. C'est lui qui a mis sa chaussure dans les props qui faisait partie des vaisseaux au loin. Le bubblegum pour remplacer... Oh oui, c'est tout à fait vrai. Le bubblegum pour remplacer les vaisseaux Mon Calamari qui ressemblaient à des pickle ships, selon Ken, c'est...
Il avait collé de la gomme sur une vitre.
Sur une vitre. Parce qu'on parle ici de plusieurs vaisseaux Mon Calamari. Fait que pour faire
loin,
une flotte, on se cassera pas trop la tête, colle un chewing-gum sur une vitre. Il y en a un, là. T'as un colle une gomme, tu le filmes, puis ça fait aucune différence. Fait que ça l'avait vraiment fait tuer. Quand ils ont tourné le film d'ailleurs, parce qu'il a dit qu'il a besoin des modèles à ce temps, qu'est-ce que tu prends, c'est un chewing-gum, tu le colles sur une vitre, pis t'as ton vaisseau. Fait que... les histoires des bas-fonds des effets spéciaux de ILM. Les traditions dans Star Wars, on parle du Wilhelm. On se souvient que Weak tombe justement dans le fameux Sarlacc Pit qui entre les pires cauchemars de Jonathan. On entend un petit cri. Ah! C'est un petit cri qui a été pris, qui a été enregistré en 1953 pour un film Charge at the Feather River, qui était un cowboy justement qui tombait à l'eau et qui criait comme ça.
Ils ont pris le même
cri féminin. Ben Burtt a repris le même son pour faire un des personnages qui tombe dans le Sarlacc Pit. La fameuse phrase I have a bad feeling about this.
Mm-hmm.
Et puis surtout quand Han Solo l'a dit, quand il a vraiment un really bad feeling about this, quand il est à veille de devenir du beef jerky pour les Ewoks. Une belle brochette de Solo. Le fameux 1138, série du THX 1138, le premier film de George Lucas, qui a été distribué à grande échelle, on parle. Il était dans tous les autres films de Star Wars, on sait qu'il est dans Star Wars, dans Empire Strikes Back, et même dans l'épisode 1 et l'épisode 2, mais pas dans Return of the Jedi. La question, est-ce qu'il sera dans l'épisode 3? Le fameux 1138, c'est tiré justement du titre du film. C'est une désignation de personnages. Alors, le film de THX 1138, c'est un film très psychologique. Puis tous les gens sont tous désignés par des lettres et des numéros, un code alphanumérique. Puis, George Lucas a repris le fameux 1138 dans plusieurs autres films après, qui, le 1138, est un rebelle, justement, sur cette planète. Les choses que vous ne saviez probablement pas par rapport à Return of the Jedi, bon, pense que le Revenge of the Jedi, ça, on le sait tous que oui, ça l'existait effectivement. C'était un des running titles pour Return of the Jedi, mais la véritable raison pour laquelle ça a été mis en place, ce titre-là, c'était vraiment pour déjouer les pirates et empêcher les bootlegs de sortir.
Moi, on avait lu d'autres que c'était que Lucas disait que il voulait un
ça
Jedi,
fait trop, ça se venge pas.
Ça se venge pas.
Ça a été, c'est des rumeurs qui ont été sorties par les fans qui ont dit. Puis après ça, George Lucas il a dit oui qu'effectivement, je veux dire un Jedi, ça peut pas avoir un sentiment de vengeance.
Ah, ok.
Mais la vraie raison derrière tout ça, c'était vraiment pour les bootlegs.
Et pourtant, il avait sorti des posters là, tu sais, dans la boîte de céréales, je me rappelle.
La raison. C'est ça, la raison pour laquelle ça c'est arrivé, c'est que Fox ont décidé de tout faire la publicité à partir du mois de décembre. Mais il n'y a personne chez Fox qui a confirmé le titre du film.
Oh.
Le titre n'avait pas été encore annoncé officiellement, mais tous les médias disaient « Ah, ça va être Revenge of the Jedi, ça va être Revenge. » Fox, ils ont dit « Bon, ben, go, on sort les affiches. » Fait que les affiches de Revenge, les jouets de Revenge, il y a certaines casquettes, des choses comme ça, qui sont sorties avec Revenge of the Jedi.
Ok.
The Jedi Strike Back.
Ouais.
Tant que ça, ouais.
Exact. Mais c'était vraiment pour les bootlegs que ce titre-là avait été choisi. On se souvient aussi de Blue Harvest, qui était un autre des titres de production.
Un titre de travail, ouais.
C'est ça, un titre de travail.
Pour cacher les. Pour pas savoir que. Parce qu'il y a toujours des espions qui essaient de.
Qui essaient de sortir des médias, qui essaient de sortir le titre. Fait qu'après le fléau de Revenge of the Jedi, ils ont décidé de prendre Blue Harvest quand ils travaillaient en Californie, puis sur une autre production dans le désert aussi.
Pour pas que le monde dise on va aller voir Star Wars, mais ils savaient pas que.
C'est ça. Fait que là, ben, quand il y en avait quelqu'un qui trouvait Blue Harvest, mais là tout le monde en parlait. Là, c'était ça va être ça le titre. Ben non, les gars, c'est clair que c'est pas ça le titre. Et oui. Les fameux henchmen, les gardes, les bras forts de Jabba the Hutt, ceux qui poussent Luke sur la passerelle dans la bouche du Sarlacc. Nikto, Klaatu, Barada et Nikto. Ça vient d'où ça?
Ces noms-là,
ça vient d'où? Ben, ça vient d'un film qui s'appelait The Day the Earth Stood Still. Et c'est un très vieux film en noir et blanc. Je pense qu'il y a eu une réédition en couleur qui a probablement été faite. C'est un extraterrestre qui tombe sur Terre, tout ça, il vient porter la paix, mais il se fait attaquer. Bon, histoire classique de science-fiction générale, si vous voulez. Et pour le password pour rentrer dans le vaisseau de cet extraterrestre-là était Klaatu, Barada, Nikto. Et ces trois noms-là ont été repris à maintenant plusieurs reprises dans plusieurs autres films aussi, pas seulement dans Star Wars, mais c'est un clin d'œil à The Day They Heard Stood Still. Puis il y a Weequay, celui qui ressemble un peu à un gars qui a trop cuit dans le four.
Ouais, c'est ça.
Quand on regarde les figurines, là, ça ressemble vraiment à ça.
Un grain brûlé.
Un grain brûlé, exact. Ben, Weequay, ça vient, c'est un petit peu un nom altéré de Queequeg. Souvenons-nous de Moby Dick.
Queequeg.
C'est de là que ça vient. L'harponneur du. Du ville.
Je me souviens pas de son nom.
C'était Queequeg. Et voilà. Fait que je vais parler tout de suite du fameux extraterrestre que je parlais un petit peu plus tôt dans l'émission par rapport à l'image de.
L'icône de Michael Skywalker.
Et oui. C'était une maquette complètement oubliée qui était supposée être un des extraterrestres dans le palais de Jabba. Alors, il avait été surnommé Hole in the Head parce que c'était un peu comme un conehead écrasé de face. Puis il y avait un trou dans la tête qui passait. Bref. Il s'était peut-être rendu un petit peu. Il s'était peut-être frotté un petit peu trop près à des Bounty Hunters, on ne sait pas. Mais quand on regarde comme il faut le buste de cette maquette-là, puis qu'on regarde les nouveaux Jedi dans l'épisode 2, dont le Jedi, le personnage qui meurt malheureusement par Jango Fett, on trouve une très grande ressemblance. Selon moi, le même Danny, j'ai montré la photo. C'est assez intéressant. Leia qui étrangle Jabba. Ça vient de où ça? Ben, ça a été en partie inspiré du Godfather.
Ok.
Quand Luca Brasi y est étranglé par Garrote, c'est de cette scène-là qu'ils ont pris l'idée de faire Leia qui tue Jabba the Hutt en l'étranglant avec sa chaîne. Francis Ford Coppola était très honoré, apparemment.
Mon Dieu.
C3PO. On sait que C3PO a été joué par Anthony Daniels, mais en fait, C3PO était presque pas tout le temps dans le suit d'Anthony Daniels, parce qu'il fallait qu'il fasse certaines scènes de stunt, certaines scènes d'acrobatie. Puis c'est Tracy Hayden, une stunt coordinator, une stunt professional, qui a une cascadeuse qui a fait ces scènes-là pour pas que Monsieur Daniels ne se casse un ongle.
Donc la scène quand qui justement l'image qu'on voit dans l'épisode 2, c'est quand qui saute de la barre, quand R2-D2 le pousse.
Entre autres. What are you doing bumping in my hat like that? On se souvient tous de la fameuse scène du briefing avant l'attaque finale sur la Death Star.
Mm-hmm.
Eh bien, imaginez-vous que cette scène-là a été tournée dans les studios de Livingston à Londres. Et c'était horrible parce qu'il y avait des pigeons qui s'étaient nichés dans les plafonds du Livingston Studio. Fait que le son était tellement horrible, on entendait les pigeons battre des ailes, puis faire la exactement des bruits horribles comme ça. Il a tout fallu réenregistrer le son de cette scène-là à part, puis le recoller par-dessus après.
Oh mon Dieu.
Moi, ce que j'essaie d'imaginer, c'est le pigeon qui prend son mauvais moment pour avoir envie, puis qui lâche une crotte directe sur le bord de la face de Mon Mothma. C'est tellement drôle. Oh. Ça gâche tout le fun, ou bien même sur la Death Star, tu sais, quand il rouvre l'hologramme.
Tu vois une crotte passer au travers.
C'est ça. Ou bien elle colle sur le dessus de l'hologramme, tu sais.
Ouais.
Elle coule. Burp jokes.
Ouais.
Exact.
Il y en avait déjà trop, donc.
Eh oui. Les fameuses personnes qu'on voit derrière l'empereur, les conseillers de l'empereur, comme on les appelle, c'est qui, d'où ce qu'ils viennent? Ben c'est ça, c'est un ordre que l'empereur soutient. C'est des conseillers qui gardent, puis qu'on sait presque rien sur eux. Mais ils sont toujours là, sont toujours présents dans sa pièce. Leia, qui se rappelle de sa mère, elle était vraiment petite pourtant. Puis, dans le roman, The Return of the Jedi, elle se souvient que Leia, elle se souvient que sa mère était. Elle avait tendance à vouloir se sauver. C'est une vraiment merveilleuse femme. Mais elle se cachait dans un coffre. Une coffre de voiture. Là. Elle comprenait pas pourquoi. Quand il se sauvait des choses comme ça.
Ok.
Voyons voir. Quoi d'autre? Le fameux feu à la fin de Return of the Jedi où Vader se fait complètement
incinéré.
Pourtant, on voit le fantôme d'Anakin qui réapparaît, donc on est content de savoir que son corps
a disparu.
Son corps céleste est toujours intact. Ben ça a été tourné dans les collines qui sont aux alentours de Skywalker Ranch.
Ok.
Fait que c'est probablement à la fin de la production, ils ont filmé ça.
On fait tout brûler.
C'est ça, puis ils ont tout fait brûler, puis ils ont tout fait chauffer la guimauve, puis ils étaient tous contents que le film soit enfin fini. Et voilà. Je dirais que. Ah oui! Quelque chose qui est intéressant à savoir, qui serait intéressant à voir aussi, j'aimerais vraiment ça pouvoir un jour toucher à cette réplique-là. Une réplique grandeur nature du Faucon Millennium qui a été construite. Pour la fameuse scène où on voit Han dire à Lando, j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je le vois, là, quand on voit le hangar et tout ça, il y a une réplique grandeur nature du Faucon qui a été construite.
Puis elle existe encore.
Apparemment.
On imagine au Skywalker Ranch, là, dans un étage.
C'est ça.
Comment tu fais pour déplacer ça? Il faut que ce soit
l'extérieur. C'est la même que l'épisode New Hope?
C'est la même que Empire Strikes Back, en fait. Okay. Pour Empire Strikes Back, il y en a fait une, c'est la même. Mais finalement, on l'a jamais vu dans le film. C'est un made painting qui a été utilisé.
Okay.
C'est pour ça que ça fait pas très très réaliste l'image en arrière de Lando. Et oui. Fait que. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur...
Ça, c'est...
Ben, ça, c'est les line-up de ça. Les différents aliens. Alors, bon, les planètes, évidemment, il y a Tatooine, Endor qu'on voit et Coruscant dans la Special Edition. Ouais. Qui était quand même intéressante, on avait hâte à l'épisode 1. L'épisode 1 est arrivé, on avait hâte à l'épisode 2. L'épisode 2 est arrivé, on a plus hâte à l'épisode 3. Bon, c'est pas vrai, on a très hâte à l'épisode 3. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Vader, ce personnage mythique. Alors, les nouveaux aliens qu'on voyait dans Return of the Jedi, ben, il y avait bien sûr les Gamorréens, les Hutt avec Jabba, les Twi'leks avec la merveilleuse Oula. Et Femi Taylor, 15 ans après, a refait des scènes pour la nouvelle édition, toujours dans la même shape. Et je peux vous dire qu'elle est venue au mois d'octobre à Québec, le 28 octobre à Québec 2001. Et elle était enceinte. Je l'ai revue la même année à la Star Wars Celebration avec son petit gars. C'est un petit gars finalement. Et elle a gardé la même shape. Cette femme-là est merveilleusement chanceuse. Les Ewoks. Eh oui.
Boule de poil.
Les Sulustéens. Alors, qui sont les Sulustéens? Le copilote de Lando dans le Faucon.
Niem Nam,
mais oui.
Figurines que tu vas avoir gratuit dans la malle au départ. Là.
C'est cela. Qui valent d'ailleurs maintenant beaucoup. Qui valent beaucoup d'argent. Désolé. Les manques calamari. Les fameux inventeurs des B-Wing, le vaisseau préféré de Jocelyn.
Oui.
Le Rancor. Et un moment tendre, le Rancor, c'est quand il se fait transpercer, qu'il fait son petit bruit de chien.
Là, son maître est tout déçu.
Oui. Et les Drezzleians, c'est les pirates un peu, là, celui qu'on dirait que son cerveau est complètement sorti de sa tête avec une bandoulière de pirate. C'est un des nouveaux extraterrestres parmi tant d'autres qu'on voit dans les...
Appelette Jabba. La Return.
Exactement. Alors...
Les scènes d'identité.
Les vaisseaux. Zoom, zoom. Comme l'annonce de Mazda, zoom, zoom, zoom. Alors, on parle maintenant de la Shuttle Tiberian, celle qui a amené Vader, la ST-321, celle qui a amené l'Empereur aussi, celle qui a amené évidemment les rebelles, la Shuttle Tiberian. Ça a été beaucoup utilisée, puis elle a même été réutilisée après dans les Special Edition pour faire une des navettes qui transporte Vader sur l'Executor dans Empire Strikes Back. Les Sales Barge, fait qu'on se souvient de la majeure, la grande Sales Barge de Jabba. Puis il y avait les petites, mais les petites c'était supposé skiffs, être là. Les petits skiffs là, c'est supposé être des vaisseaux de secours de la Sales Barge, un peu comme des chaloupes de secours. Les Speeder Bike, qu'on se souviendra toujours des Speeder Bike.
La belle poursuite, ouais. Exactement. C'était assez hallucinant pour le temps.
C'est cela. Ceux d'ailleurs qui connaissent bien la poursuite, je vous invite à regarder Shrek. Et quand Donkey se pousse à travers les bois, un petit peu en volant puis en courant, là, vous remarquerez la position des arbres dans la forêt. Si vous ne faites pas le lien, vous reviendrez me voir.
Je ne savais pas.
Les A-Wing. Ce petit vaisseau, grand comme un pick-up truck, qui a réussi à détruire un vaisseau, grand comme... le World Trade Center. Mais quand on y pense, dans le fond, il y a des avions, en fait. On va tenir le sujet.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a déjà un truc qui a essayé, puis ça n'a pas marché. Sauf que là, le truc est rentré. Ben, quand vous regardez bien à travers les images des effets spéciaux du A-Wing qui défonce le cockpit du pont principal de l'Executor.
La passerelle, ouais.
Si vous le passez au ralenti, puis même, il passe assez au ralenti, quand on est habitué, on le voit, là, on peut voir le châssis d'un Dodge Ram.
Ben voyons donc.
Ça paraît, là. Ah ouais. C'est vraiment fort. C'est une des choses. Une autre des choses avec les petits carrés qui n'ont pas enlevé, là, justement, les carrés autour des TIE Fighters, okay. Qui n'ont pas enlevé. Les fameux B-Wing qu'on voit beaucoup plus maintenant, par contre, dans Return of the Jedi, qu'on les voyait avant. Quand même plus.
Les éditions spéciales en ont rajouté?
Je pense que vous aussi. Oui. Ils font partie de ceux qui s'en vont attaquer la deuxième date. Les AT-ST. Les Chicken Walker, comme ils sont appelés.
Chicken Walker.
Écoute, ça bouge comme une poule. C'était comme une poule. Ça meurt comme une poule. et les TIE Interceptors, qui sont évidemment une modification du fameux TIE Advance de Darth Vader, mais maintenant avec un look beaucoup plus sinistre, beaucoup plus macho, qui fait beaucoup plus hot, ça donne envie d'en conduire. À comparer aux autres TIE, là, je veux dire. Moi, tu m'amènes un TIE Interceptor n'importe quand. Ben voilà.
Et c'est tout, on a fait le tour.
On a fait le tour rapidement, oui.
Donc, théoriquement, tout ce qu'on vient de mentionner, ça devrait être dans le Lucasfilm Magazine.
Il y a des grosses chances.
Des bonnes chances. C'est lui qui sort demain, donc allez l'acheter si vous voulez avoir plus en détail qu'est-ce qu'on vient de dire.
Mais ça, c'est pas le Lucasfilm Magazine?
Ça, c'est le Star Wars Insider.
Inside, la version anglaise.
C'est la version originale du Lucasfilm Magazine.
Ah, ok, là, c'est une version française. Ah, c'est
la version française, sont le décalé souvent.
Ah, ok.
Ouais. Ils ont tout le temps quelques exclusivités, mais...
Et ils ont maintenant, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas, qui ont pas encore acheté l'Insider numéro 67, je vous dirais d'aller l'acheter, il est très intéressant. Et puis, c'est le retour aussi du Bentatrax en flip cover. Alors, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé en 1983, des choses comme ça, Mary Franklin qui fait un petit résumé de où est-ce qu'elle était, c'est maintenant la directrice du Bentatrax qui est le petit fanzine du fan club de Star Wars. Puis c'est très drôle de voir que elle, tout comme une de nos anciennes membres de l'équipe Fogara, avant d'avoir vu un film de Star Wars, elle n'en savait rien. Puis après les avoir vus, ben maintenant c'est tout. Elle s'est renseignée puis est vraiment tombée dans le rêve de la guerre des étoiles.
Bon, alors on va faire notre pause de...
petite pause musicale.
Oui, deux secondes, je vais.
Non, parce que là, tu vas mettre le Yoda Slav, ça continue.
Non. Ben, regarde, on va faire écouter rapidement la tune originale que le Max Rebo Band faisait dans la version originale avec Sice Noodle et puis...
Fait que pour ceux qui se souviennent pas de laquelle on parle parce qu'ils l'ont pas entendu, pour vous mettre en contexte, dans la nouvelle édition, c'est celle qui commence avec le grand baveux en avant de la scène qui fait « Ah, rawa! » Houdini, Barrada, ah là ouais. C'est ça, c'est Sice Noodle.
Ouais, c'est ça, exactement. Là, ça va être la version originale, qui était plus du temps aussi, qui était un petit peu plus disco.
Ouais.
Un petit peu plus avec on va faire entendre immédiatement. Enfin, donc et puis on va suivre aussi, on va faire notre pause musicale immédiatement après avec deux tunes encore de Matrix Reloaded. Donc on revient après ça pour parler du concert Star Wars. À tantôt.
Two weeks for money. Quick, maybe a busy noon. Crack, too much at nothing. Yeah.
Hi, I'm Sean Williams.
And I'm Shane Diggs, and we're the authors of the new Jedi Order trilogy, Force Heretic.
You're listening to Star Wars One Direct.
Star Wars en direct vous revient après ces quelques messages. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Et on est de retour au Star Wars en direct, la 29e émission. Et on vient de parler du 20e anniversaire de Return of the Jedi, donc ceux qui viennent juste de se joindre à nous, Dark North entre autres.
Ben oui.
Bonjour North, ben vous téléchargerez l'émission qui devrait être disponible ce soir ou demain. Mm-hmm. Vous la téléchargez sur la page archive du nouveau site.
pour ceux que ça intéresse, on va fêter un petit peu ça ce soir avec les gens de Monsfa, ben ceux qui voudront là. On va être soit s'il pleut à la cage au sport sur René Lévesque qui est au coin de pas Crescent. Sur René Lévesque à côté de Crescent, entre Crescent puis Guy.
Une cage au sport là.
Une cage au sport là. Et sinon, ça va se passer au Jillian's, au métro Atwater, au Forum Pepsi, dans l'ancien
Forum.
Où
c'est qu'il y avait les gros parties,
là où on a fait tous nos gros parties, ce clan.
Ouais. OK, maintenant, on parle du section événement, le concert Star Wars, et puis évidemment, vous les avez entendus un petit peu au cours de l'émission, c'est Jocelyn...
Leblanc
et Jonathan Dagenais. Désolé.
Bonjour.
Petit blanc de mémoire.
Exactement. Donc, Jocelyn est l'arrangeur, directeur et maestro. Chef d'orchestre, maestro, etc. Et Jonathan, le gérant des musiciens. C'est cela. Tu t'occupes des musiciens. Bon, on a fait des petites questions vite.
Ça charge combien des musiciens comme ça en général?
Ça charge combien?
Ouais, en tant que gérant, ils doivent te demander.
Ah, ils me chargent des gros zéros. Là. Ben des zéros, mais pas de chiffre avant les zéros.
Faut que tu payes pour eux autres, c'est ça.
C'est pas super.
Non, c'est ça. Bon, la première chose, évidemment, c'est d'où est venue l'idée de faire un concert Star Wars, évidemment.
Ben, fait longtemps que, bon, je suis dans la musique de film, que j'écoute beaucoup de musique de film, et finalement, mm-hmm. Star Wars, c'est quelque chose qui m'intéressait, j'aimais beaucoup la musique. Puis, je suis en train de faire le projet avec un autre orchestre, qui s'appelait l'Harmonie Laval, et on s'est tout attendu l'année, quand est-ce qu'on allait faire ça. On était en train de faire ça, je pense, en 2002, puis pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de laisser tomber le concert.
OK.
Et moi, j'ai dit, hey, je me souviens de me former un orchestre, ça fait rien que 2 ans et demi, donc j'ai décidé de la reprendre et mm-hmm. de le faire. Donc ça donne que on a décidé de le faire, puis ça tombe. Bon, j'attendais que mon orchestre soit prêt à faire ça, parce que on ne pouvait pas faire ça à nos tout débuts quand mm-hmm. j'ai fondé l'orchestre. On était 11 dans l'orchestre.
Okay.
On peut pas faire un concert de Star Wars en 11 musiciens. Uh-huh. Donc on a attendu que l'orchestre soit à haut niveau et assez nombreux, et on a décidé c'est cette année, en 2003, le 14 juin. Donc
c'est ça. On sait que la semaine dernière on est allé à une de vos pratiques. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, si vous venez pas au concert, vous allez manquer quelque chose, je vous le garantis. Puis, je pense pas que ça va être rediffusé sur Radio Citlan. Peut-être, mais ça m'étonnerait beaucoup. Bref.
Oui, en effet. Peut-être quand le CD va sortir.
C'est ça. Bref, une des choses que j'ai remarqué, c'est que vous étiez rendu une quarantaine environ.
On est rendu 47 exactement.
47.
C'est toujours le compte juste. Là.
C'est ça.
On est rendu 47 musiciens. Donc, on est parti de 11 à 47 en 2 ans et demi. Donc, là, on s'est dit qu'il était le temps de faire un... Parce qu'il faut dire que pour l'histoire de l'OVMF, c'est le plus gros concert à date, le plus gros projet. C'est quelque chose qui s'en venait. Le concert Star Wars, on en parle même depuis 2 ans. Là, que déjà 2 ans, on disait, hey, on ne peut pas le concert Star Wars parce que à chaque session, on a une thématique. On savait qu'à un moment donné, on était pour faire une thématique Star Wars. C'était clair.
Mm-hmm. Est-ce
que on est rendu juste à point.
Il y a 2 ans, d'ailleurs, on avait assisté à un concert en mars 2001. Est-ce que...
À l'Université de Montréal.
Est-ce qu'il y a...
Dont je faisais partie, d'ailleurs.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un peu de ce concert-là qui a un petit peu lancé l'idée puis dit, faut vraiment qu'on le fasse, le concert Star Wars?
Ben, moi, je ne savais pas qu'il l'avait fait, ce concert-là. Je l'ai su après que j'ai eu l'idée. Quelqu'un m'avait dit ça, qu'il y avait eu...
Il y avait eu 5 pièces.
Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs orchestres qui font de temps en temps des... Ouais, Hans Murray qui avait arrangé.
Les scènes principales, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Puis... J'en avais déjà joué, cet arrangement-là, j'avais déjà joué aussi à Sherbrooke, là, un an et demi. Donc, mais tu sais, chaque petit orchestre au Québec fait, ou gros orchestre, fait de temps en temps une tune ou deux de Star Wars, mais aucun a fait uniquement
un concert complet
avec des grosses tunes de Star Wars, ce qu'on veut. On veut pas juste les thèmes principaux. Mm-hmm. On va les faire pareil, le thème de la princesse Léa, c'est beau, on mm-hmm. va le faire, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qu'on veut entendre. Donc, mm-hmm. on fait plus que juste les thèmes principaux. C'est pour ça qu'on okay. veut le faire.
Okay. Tu mentionnais qu'il était rendu 60, le nombre de musiciens
47.
Leur background à eux autres, c'est quoi leur background musical de la plupart des musiciens?
Ben, c'est plusieurs backgrounds musicaux. On a autant du monde qui étudie en musique, soit au niveau, on n'a plus du niveau secondaire maintenant, ils sont tous rendus au cégep.
Mm-hmm.
Cégep et université, du monde qui étudie en musique, donc qui ont quand même un calibre assez élevé.
Mm-hmm.
Et les autres personnes, c'est du monde amateur, carrément, qui ont un emploi normal dans la vie, mais qu'ils ont gardé la passion pour la musique, pour un instrument, puis ils s'intéressent à notre orchestre parce qu'ils ont aussi une passion pour la musique de film.
Mm-hmm. Moi, j'ai une flûte soprano, là. Flûte en plastique Archambault. Ben, je peux-tu me présenter puis dire j'aimerais ça faire partie de votre orchestre.
Ben, dans les auditions.
Non, mais pour revenir à ce que disait Jocelyn à propos de Star Wars, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ensembles au Québec qui font Star Wars. Et tout le temps, à un moment donné, dans un des concerts, ils vont jouer un arrangement de Star Wars qui existe tout le temps, les thèmes les plus connus. Tu sais, mm-hmm. Comme juste quand on revient justement du festival de Sherbrooke, ouais. Quand on est allé prendre la photo, je me rappelle, ça m'a marqué. Il y a des orchestres primaires aussi. C'était un festival ouvert à plusieurs catégories, des mm-hmm. orchestres primaires qui avaient un arrangement de Star Wars vraiment basic, là, avec, okay. avec un rythme vraiment simple de Star Wars. Fait que, tu sais, c'est, tout le monde, à quelque part, leur prend les thèmes de Star Wars, mais nous, on s'en va à fond dans la trame sonore, dans mm-hmm. les thèmes.
Ça touche vraiment toutes les générations, ah, puis ouais, même ouais, encore ouais. aujourd'hui, les générations plus jeunes.
Alors, les annonces du concours à Sherbrooke de la semaine dernière, je crois, c'est la fin de semaine dernière.
Ouais. La semaine dernière.
Ouais. Par les annonces, les pièces que vous avez jouées.
Félicitations, ouais, félicitations, vous avez gagné le premier prix. Exactement. Dans votre catégorie. Merci.
C'est qu'on est allé au Festival des Harmonies et Orchestres Symphoniques du Québec, qui a lieu une fois par année sur le campus de l'université à Sherbrooke, mm-hmm. qui regroupe environ presque tous les ensembles amateurs au Québec. Amateurs semi-professionnels, ça dépend, là. Aller jusqu'à la plus grosse classe. Donc, il y a du monde du primaire, des orchestres de primaire, beaucoup d'orchestres de secondaire qui se présentent dans le junior, qu'on appelle, là, des orchestres et des harmonies. Et nous, on est allé là en classe senior ouverte, ça veut dire la plus haute du festival, où on a présenté, il faut tout le temps qu'on présente là-bas deux pièces jugées, et si on veut, une pièce de réchauffement pour faire aller la sonorité de l'orchestre et donner une idée au juge de la sonorité. On a présenté Battle of Hoth, de la trame sonore de Empire Strike Back, mm-hmm. pour ceux qui ont la nouvelle édition, c'est le premier CD piste 5. Si vous voulez savoir, pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, j'imagine pas. Et on a présenté aussi, comme deuxième pièce jugée, une pièce qui fait pas partie de l'univers Star Wars, c'est Escaflowne, un dessin japonais animé. C'est un medley du film et de la série Escaflowne.
D'accord.
Et c'est ce qui nous a fait gagner la première place, le premier prix mm-hmm. à ce festival.
C'est bon. J'ai juste parti de votre musique en arrière-plan.
Ben, mais donc d'ailleurs, c'est Escaflowne en
arrière-plan. Parce qu'il y en a plusieurs, là. On va mettre ouais. la première.
Donc, continuons.
Jocelyn, c'est toi qui as tout refait les arrangements parce que il y a des instruments qu'il n'y a pas. C'est un orchestre d'instruments avant, donc les arrangements, ça a pris combien de temps? C'est quoi ton processus pour tout partir du CD puis réarranger tout pour que ça fonctionne avec ton orchestre?
Bon, premièrement, faut faire les choix des pièces. Donc, mm-hmm. je me suis tapé des heures et des heures de réécouter la première trilogie, parce qu'on fait pas épisode 1 et 2, on va le faire, mais qu'il y a un épisode 3, mm-hmm. c'est si on va refaire un concert avec épisode 1, 2, 3. Donc, il a fallu que je réécoute 4, 5, 6. Après ça, je choisis les pièces. Une fois que j'ai choisi, faut quand premièrement que je transcris la musique sur papier, ça va être papier dans l'ordinateur plutôt, mm-hmm. là. Donc, j'ai ce qu'on appelle repiquer la musique. Mm-hmm. Je vais juste reprendre ce qu'il y a, marquer ça en note, ça. Mm-hmm.
Je transcris. C'est une bonne oreille pour...
C'est long. C'est faut qu'il y ait un par un avec le piano.
C'est long. On écoute la ligne de violon, on transcrit le violon. On écoute la ligne de flûte, on transcrit les flûtes.
Okay. On prend ce qu'on entend, parce qu'on peut pas tout entendre. Mm-hmm. Il y a peut-être des êtres humains qui sont capables de tout entendre, mais moi, j'en suis pas un.
Okay.
Alors, donc, on entend le principal. Après ça, un coup, j'ai transcrit ça. Ça me donne une espèce de sheet, un lead sheet que j'appelle mm-hmm. en français. On appelle ça
partition
maître. C'est juste des notes. Après ça, je dois amener ça à l'orchestre avant. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on appelle l'orchestration? Parce qu'il faut pas oublier que dans un orchestre avant, on n'a pas de violon. Mm-hmm. Puis on a des saxophones qu'il n'y a pas dans l'orchestre symphonique. Donc là, il faut que j'orchestre, c'est-à-dire il faut que je désigne chaque ligne à quel instrument que c'est. Okay. Et ce que je n'ai pas réussi à entendre, je dois le boucher les trous avec mes connaissances.
Okay.
Donc, est-ce que j'ai dû boucher. Et disons qu'une pièce qui dure, mettons, 4-5 minutes, ça peut me prendre jusqu'à 40 heures.
Oh, mon Dieu.
OK, c'est donc...
C'est quand même l'orchestre avant, c'est quand même une bonne équipe. Comme on le voyait à la pratique, il y a certains... tu prends quand même les suggestions de tes musiciens quand tu réécris les partitions pour faire certaines corrections.
Oui, il y a tout un des corrections à faire sur un coup que l'arrangement est fait. Ça arrive souvent que je refais des nouvelles versions, des versions que j'appelle les versions 1.1. Je fais des petits changements dedans. Ça arrive plusieurs fois, parce que même John Williams lui-même, quand il compose, il dit, quand il arrive en studio, « Ah, ça marche pas, tu peux-tu faire ci-même, donc... »
sur le moment là,
mm-hmm. c'est pas une science exacte, hein. c'est pas parce que mon ordinateur le joue avec mon synthétiseur que ça sonne bien sur mon synthétiseur, ça va bien sonner par les musiciens, donc je dois souvent refaire des petites corrections à gauche et à droite. Des fois aussi, c'est par des manques de musiciens. On n'a pas de basson dans notre orchestre, malheureusement. L'année prochaine, on s'en a l'air qu'on va en avoir un. Donc, on n'a pas de basson. Pour le concert Star Wars, c'est pas grave. Dans Star Wars, les bassons sont pas importants. Ce qui est important, c'est les trompettes, les trombones et les cornes dans Star Wars et les percussions. Donc, on a ces instruments-là en masse. Donc, là-dessus, ça va bien sonner.
OK. Sébastien me mentionnait tout à l'heure, c'est quoi le pourcentage des musiciens qui sont fans de Star Wars?
Oh mon Dieu!
C'est une bonne question.
Dans quel sens? Quelle hauteur de fans? Non, parce qu'on prend vous autres?
Non, pas à notre hauteur.
On s'entend. Tu sais, qui connaissent les films, qui savent c'est qui Luc.
Il y en a quand même pas mal. 10%. Tu sais qu'on était un camp, puis beaucoup parlaient de Star Wars au camp. Donc, on était un camp musical pour la préparation du concert et du festival. On a quand même beaucoup qui sont fans, là. On a un qui est maniaque comme vous autres, qui a l'air d'avoir beaucoup d'affaires. Il y en a quelques-uns, là, qui sont vraiment assez gros maniaques, qui connaissent beaucoup. C'est comme nous qui connaissons les films, on les a écoutés souvent. Il y en a une autre classe qui, eux autres, le connaissent bien. Peut-être un petit 10% que...
Ils s'en foutent, ça, c'est de la musique de film.
C'est ça.
Il y en a peut-être 5% qui pensent que Spock est dans Star Wars aussi, là, qui connaissent pas tout ça.
J'avoue que
c'est pas trop.
Une anecdote pour ça, en passant, là, quand je suis allé voir épisode 2, je suis allé voir, je pense, la journée, est-ce que c'est sorti, la salle était pleine, c'était au Colossus à Laval en anglais. À un moment donné, le silence tombe, je sors super fort, je dis, en anglais, je dis, oh man, I can't wait to see Spock! Tout le monde est parti à rire dans la salle. Le geek de Star Trek, il se retrouve pas à bonne place.
C'est ça. C'est là qu'il se fait couder par ses chums.
Exactement. D'ailleurs, on avait organisé une sortie. On avait un party avec des costumes, puis il y avait quelqu'un qui s'était déguisé en Spock par exprès. Parmi tous ceux qui étaient costumés, il y avait une personne en Star Trek.
Et oui.
Non, c'est ça, pour revenir à notre orchestre, c'est pas mal tout le monde. Au moins 95%, même 100% connaissent Star Wars, mais je dirais, mettons, au niveau comme moi de fan, moi j'adore Star Wars, je suis un fan, mais comme vous voyez tantôt, je suis pas capable de sortir les noms des affaires précises, là, comme là, je me rappelle même pas encore, là, c'est lui qui me traumatise, là, c'est ça. Boba Fett et toute l'équipe, je suis capable, c'est environ pas mal 80-85% du monde comme ça, là, tu sais. Okay. Et d'ailleurs, comme on est pas mal tous des fans de musique de film, beaucoup de monde savent que la musique de Star Wars c'est un chef-d'œuvre dans la musique de film, donc plusieurs personnes connaissaient déjà Star Wars à cause de ça.
La plupart avaient déjà les trames sonores chez eux, par exemple.
Ah oui, je suis certain que beaucoup de monde dans l'orchestre ont les trames sonores chez eux.
C'est ça. La question que tout le monde veut savoir, c'est quoi les pièces que vous allez jouer? Est-ce que vous pouvez les dévoiler?
On va les dévoiler, pas toutes, mais c'est sûr qu'on fait les grosses bagarres, la bagarre de Hutt, de toute façon tout à l'heure, qui est quand même assez longue. On a quand même raccourci quelques bouts, parce que ça arrive des fois qu'il y a des passages qui ne sont pas jouables par un orchestre avant, parce que des violons, à l'époque des violons, ça n'a pas besoin de respirer, donc avec des vents, il faut que ça respire, on n'a pas le choix, on souffle dans l'instrument, donc il faut couper quelques passages. Donc on fait la bagarre de Hutt. On peut vous dire où est-ce qu'on fait la bagarre de Yavin. C'est évidemment les thèmes célèbres, on les fait toutes là, mais on peut pas toutes vous dévoiler. On fait des pièces de chaque.
Gardez l'eau à la bouche, on peut pas. Je vais commencer à vous dire le programme au complet, mais dites-vous que tout ce que vous avez entendu qui sonne bien là, dans la trame sonore, on le fait, c'est ça.
Bon, c'est ça. Fait que le thème de la force, le thème de la princesse Leia, tu as mentionné plus tôt, la marche impériale.
Ben oui, la marche impériale, c'est sûr. Qui ferait pas la marche impériale? Les classiques, c'est sûr là.
Et puis en pratique, on a entendu la parade des Ewoks et puis...
Ouais, c'est Battle of the Forest.
Ouais, exactement. Qui avait été fait au concert
Montréal. Oui, ouais, c'est Battle of the Forest, oui.
Ensuite, question que je pourrais vous poser, c'est, avez-vous déjà pensé peut-être, après ce concert-là, d'aller à... mettons à Québec puis leur faire à Québec, il pense que les fans de Québec, je suis certain qu'il y en a qui aimeraient, qui n'ont pas l'occasion de venir à Montréal, qui aimeraient peut-être le faire à...
Le pire, c'est que quand j'avais eu l'idée au départ du concert Star Wars, j'avais eu avec l'harmonie navale, on s'en avait parlé, il y avait rien de concret, mais on avait parlé que peut-être trouver un moyen de l'amener ailleurs. C'est sûr qu'on aimerait aller le faire à Québec, mais c'est toute une organisation, savoir si on va être capable de remplir la salle, pas nécessairement remplir la salle, mais au moins rentrer dans notre argent, même si on est un organisme à but non lucratif. On est l'harmonie à but non lucratif au Québec la plus pauvre en ce moment. On est vraiment le plus...
L'argent sort de vos poches.
Non plus maintenant.
Non plus maintenant.
Mais on on roule pas sur l'or. Ouais, on roule correct.
Vous êtes la plus pauvre monétairement, mais la plus riche orchestralement.
Le meilleur qualité.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On peut voir de même. On est juste en étant au petit début. C'est sûr qu'on aimerait aller à Québec, mais c'est tout le côté marketing. C'est sûr s'il y a quelqu'un qui est prêt à nous aider à l'organiser et tout ça. Oh oui, on va l'amener. On va
vous aider, nous.
Ben, avec l'aide de cette lampe-net, tout est possible.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais oui, c'est sûr qu'on aimerait. On aimerait ça le faire ailleurs. Tant qu'à le monter une fois, tu viens de jouer.
Surtout c'est ça que c'est un gros concert. Même, tu sais, moi, dans mes rêves, disons, j'aurais aimé ça faire 2-3 soirs de ce concert-là parce que c'est un des plus gros de ce concert de l'OVNF jusqu'à date. Puis, des fois, en répétition, je me dis, mon Dieu, mais qu'on joue tout ça dans un concert, c'est gros, là, c'est quelque chose, c'est quasiment plaisant de faire ça une fois, tu sais.
Ouais, non, mais vous, en gardant les mêmes musiciens, vous pourrez éventuellement les refaire.
Oui.
Refaire le concert aussi. C'est sûr, acheter une pièce, par exemple.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a toujours ça. En tout cas, c'est pas encore décidé. C'est sûr qu'on va en faire un autre.
On va voir selon le succès.
Succès aussi. À date, le succès a l'air bon. Les ventes de billets a l'air bien allées.
Ouais, c'était ma prochaine question. La vente des billets va bien?
Ben, en ce moment, faut pas oublier qu'on distribue des billets aux musiciens, eux en vendent, puis des fous, ceux qui vendent pas, ils ramènent. Mais en ce moment, jeudi soir, j'ai demandé à celle qui vendait des billets, elle m'a montré la pile qui lui restait. Il en restait à peine 20 dans les mains.
Moi, ouais, c'est ça.
Donc, ça part, il est sûr qu'il y a des billets qui vont revenir. Mais à date, ça s'annonce.
Sold out.
Ça s'annonce.
C'est ça. Ben, pour donner quelques chiffres, là, c'est 600 personnes qui pourront avoir accès au concert. Sur ces 600 billets-là, il y en a 588 qui sont distribués partout. Il en reste 12 en possession de l'OVMF. Il y en a une vingtaine dans la possession de Citlan.net.
Ouais.
Et ça part très très vite.
Mais on va en avoir parce que, comme je vous dis, il y en a qui vont. Donc, Jonathan, encore l'information. Bon, au moins, il m'en reste quelques-uns qu'il faut que je ramène. Puis je sais qu'il y a encore du monde qui m'ont demandé que ça se peut jeune avec mon école. Je vais checker combien de jeunes qui veulent venir. Donc, il y a encore. Écoutez, si vous n'êtes pas sûr, rappelez. Puis Jonathan va vous dire.
Faites ça vite surtout. Parce que...
Faites ça vite. Appelez Jonathan. Le numéro est sur le site.
Oui. Je peux le dire.
On peut le donner, c'est vrai.
Oui, le numéro, c'est le 514-979-OVMF, comme notre nom. Ça veut dire le 514-979-6863.
Et vous avez le site web aussi, que toutes les informations sont là.
www.ovmf.qc.ca. Toutes les informations sont là. Donc, vous appelez Jonathan, puis écoutez, au pire, Jonathan va vous dire, regarde, je vais essayer de vous en trouver, puis il va vous rappeler là-dessus. Donc, on devrait en rester encore si vous appelez encore d'ici à demain. Là.
C'est quoi la réaction des fans que vous vous attendez de voir? En juin.
Moi, j'ai la réaction, je veux dire, des fans de Star Wars.
Ouais. Une question plus précise, c'est, Jocelyn, est-ce que peur que tes musiciens soient déconcentrés par les sabres laser dans la salle, puis qu'ils se mettent à suivre les sabres laser plutôt que toi?
Non, je pense, peut-être pour la première tune, ils vont être surpris, mais je pense que ça va bien aller. Au contraire, si les fans embarquent dès le début, plus ils vont embarquer dès le début, plus ça va leur donner de l'énergie.
Ça va motiver les musiciens.
Si jamais, justement, là, bon, sans non plus faire le gros party Star Wars, tout le monde se lance partout, là, mais tu sais, c'est juste qu'on sent que les fans sont là, puis qu'il y a des fans, ça va donner une énergie au concert incroyable. Là, nous, tu sais, un orchestre, c'est beau, on fait de la musique en avant, mais quand il y a une énergie qui vient de la foule en plus, ça, comme n'importe quel
c'est
spectacle.
Ça, quand on regarde des concerts comme l'OSM, comme d'autres concerts où on a eu la chance d'aller, on voit que c'est plus des gens en veston, cravate, sérieux. Il n'y a pas de niaisage dans la salle. Là. Mais la façon qu'on parlait avec vous, il y a l'air d'avoir une certaine animation pour la soirée. Puis la façon que tu en parles là présentement, Jonathan, on dirait, si les fans embarquent, si à un moment donné, comme vous faites un arrangement qu'on nommera pas, puis ça se met à crier, ben ça va être correct pareil, l'arrangement va continuer, il n'y aura pas de problème, mais vous autres, vous allez être heureux.
Ben c'est sûr que si c'est le même tout le long, on va faire comme, ben là, ça nous déconcentre. C'est ça. Comme, j'espère, je sais que ça n'arrivera pas, mais le monde va commencer à taper des mains sur l'arrangement, là, tu sais. Non, mais tiens.
Entre les pièces.
C'est ça, exactement.
Ah oui, écoute, juste on était au festival, comme on disait, le concours, et nous autres, on visait le public, et effectivement, le public a embarqué, et la foule embarquait, embarquez, si vous êtes là, embarquez, n'ayez pas peur, si vous amenez vos sabres laser, vous déguisez, allez-y, bon, vous aimez ça. Là.
D'ailleurs, c'est ça, il va y avoir quelques personnes déguisées, d'ailleurs, on appelle tous ceux qui nous écouteraient, qui auraient un costume, puis qui ont l'intention de venir au concert, ben, communiquez avec Sébastien, GJM à Citlan.net le plus rapidement possible, pour qu'on puisse arranger tout ça, et puis, parce qu'on va avoir un petit peu d'animation, autour de ça. Et puis Ouais, c'est ça. Les activités d'animation spéciales, les entractes, il y a des choses qui vont être prévues. C'est pas précisé en tant que tel.
C'est ça. Il va falloir y être pour avoir la surprise.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il va y avoir?
Vous avez fait d'autres concerts aussi? Vous faites pas juste du Star Wars?
Oui, on a fait. Là, on est sur notre 5e concert.
Oui.
Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a tout le temps une thématique par concert. Comme on a fait un orchestre avant de musique de film, on a immensément de choix. T'sais, comme on a déjà fait une thématique sur un compositeur, qui est James Horner, un compositeur de film, où on faisait beaucoup de ses pièces à travers le temps. On a fait, comme le dernier concert, c'était Noël Fantastique, où on prenait des films de Noël et de fantasy, Harry Potter, Hook, etc.
Donc vous allez vendre le CD aussi au
concert. Oui, exactement. Le CD va être en vente la journée du concert, qui est magnifiquement bien enregistré d'ailleurs. Ouais.
C'est ça qu'on écoute présentement en arrière-plan, vous ne l'entendez pas, mais c'est ça qui...
Même qu'on a déjà même des idées de nos prochains concerts,
ah oui?
thématiques qu'on va faire.
D'ailleurs,
le prochain concert...
C'est-tu Noël prochain?
Oui, exactement, qui va avoir lieu, si tout va bien, le 6 décembre 2003.
OK, d'accord.
Et si tout va bien, ça s'annonce à 90% que ça va être un concert épique et médiéval.
Oh,
donc,
c'est excellent.
Ça. Oui, c'est
ça. Ça sort bien avec Lord of the Ring un peu, j'imagine que c'était fait pour qu'on...
Le premier chevalier... Spartacus, peut-être.
Okay.
Si les pièces sont pas encore décidées, Braveheart, peut-être. C'est pas décidé encore, faut que j'attende que. J'attende
des films à grand déploiement, là, de cette époque. Ben, je veux dire, des médiévales, ouais.
Peut-être une musique de jeux vidéo, peut-être on va refaire encore Final Fantasy. C'est pas encore décidé encore, exactement.
Pour faire une suggestion, prenez une tune de Conan le Barbare, sont excellentes.
Oui, ça c'est décidé tout ça. Oui, ça c'est pas mal sûr, ça. Oui.
Bon, deux fans.
Oui,
alors, on voulait vous signaler que Danny va quitter l'équipe de Setland.net pour aller repartir son propre site conanlebarbare.net.
OK, pour terminer, le lieu, l'heure, les prix des billets, comment vous rejoindre, comment se rendre là-bas?
C'est très facile. D'abord, le concert, c'est un samedi, le 14 juin à 19h30. Je crois que c'est le samedi juste avant la fête des pères, si je me trompe pas. C'est ça, exactement.
La veille du Grand Prix.
Donc, allez pas voir le Grand Prix, venez nous voir du tout.
Écoutez, le Grand Prix, c'est bien beau, tout ça.
Non,
mais je suis sûr que votre père va vouloir un billet de concert de
Regardez, le Grand Prix, c'est le jour. Okay. Vous avez qualification le samedi, après vous allez au concert, vous allez vous coucher le lendemain, c'est Grand Prix.
Donc, c'est ça, c'est samedi le 14 juin, 19h30. C'est à la salle Pollack de l'Université McGill à Montréal. Très facilement accessible par transport en commun par la station McGill, la ligne verte, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est sortez la station McGill, vous tournez à droite, vous allez voir, c'est écrit Pollack Hall.
Et vous devriez voir des personnes en armure. Lors du concert.
Exactement.
C'est ça.
Donc, c'est ça. Et c'est les prix des billets en pré-vente, c'est 10$ étudiants. Étudiants, on s'entend que c'est tous les nouveaux étudiants, que ce soit universitaires ou primaires. Mm-hmm. Et c'est 12$ pour les adultes en pré-vente. Et à la porte, s'il en reste,
tiens.
12$ pour les étudiants puis 15$ pour les adultes à la salle.
Voulez-vous vraiment prendre la chance de pas avoir de billets, donc achetez-les en pré-vente?
Ah oui, moi c'est ce que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, depuis que j'ai dit qu'il me restait plus beaucoup de billets, je reçois plein de téléphones de mes amis, mes amis personnels, qui les disent toujours, on va en acheter à la porte, là ça se rue à me dire, non, je veux mon billet.
Exactement, donc ceux qui veulent y aller, ben faites vite à communiquer avec Jonathan par le site de l'OVMF ou avec Sébastien qui en a quelques ou aller chez Legend, il y en a quelques-uns encore chez Legend.
Exactement.
Ou encore, comme je vous dis, si vous me téléphonez ou vous m'envoyez un courriel, là, il y a beaucoup, beaucoup de façons qu'on peut se rencontrer, pour vous donner vos billets pour être certain de les avoir. Là, il y a vraiment beaucoup de façons, comme venir à notre lieu de répétition les jeudis. Il y a plein de façons là, directement de se donner un billet facilement.
Exactement.
Et si vous voulez des informations sur nous, sur tout ce qu'on a fait à date, ce qu'on est, nos musiciens, notre site internet est très beau. Et
il y a beaucoup d'informations.
Et bien, c'est au www.ovmf pour orchestre avant de musique de film. QC.ca.
Et voilà. Je pense qu'on a tout couvert les questions qu'on voulait faire. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
L'autre, il fait son petit
maestro. Il n'a vraiment pas manqué comme concert.
Exactement.
Non, c'est que là, c'est la musique de Final Fantasy en arrière-plan.
Ouais.
Tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire le petit maestro avec mon attache, c'était Escaflowne Dance of Curse.
Ah.
Alors... J'étais pris dans le rythme.
Avez-vous une chanson préférée de votre concert que vous aviez faite, Fantasy de Noël? On va passer avant de fermer le spectacle.
Moi, ce que j'en ai une préférée de ça, c'est de Young Sherlock Holmes.
Okay.
Que j'aimais vraiment là, de ce concert-là.
Ok.
Et je vais vous dire, même celle du concert Star Wars, ma préférée, c'est Battle of Hoth.
Nous, on l'a entendu indirectement là, avec les commentaires.
En tout cas, on a entendu des bouts.
Au concours, oui. On vous l'a fait écouter parce qu'au concours... on est enregistré et les juges parlent dessus la cassette ou le CD
Et on a fait écouter ça à nos deux amis. Mm-hmm. Je pense le deuxième mouvement et le troisième mouvement de Battle of Hearts, je pense.
Puis on voit que même les juges étaient
enthousiastes.
Ah oui.
Exactement. Donc, on a-tu d'autres choses à dire pour le show?
Je pense que peut-être une chose à rajouter. Comme je disais alors un petit peu plus tôt, ceux qui viennent de joindre à nous, on va célébrer le 20e anniversaire ce soir avec Mansfa, qui est l'association montréalaise de science-fiction fantastique. Alors, s'il se remet à pleuvoir ou si la température n'est pas très intéressante, ça risque de se passer à la cage au sport sur René Lévesque entre Guy et Crescent, ou sinon, ça sera au Jillian's à l'ancien forum.
OK. Et puis, la prochaine émission... les studios Citlan déménagent, donc la prochaine donc les prochains la prochaine émission devrait être fin juin début juillet. La date est pas spécifiée exactement, là, ça va être soit le 29 juin ou le 6 juillet, la fin de semaine du 29 juin ou 6 juillet, et ça devrait être l'émission spéciale sur Force Heretic Refugee, le roman, avec entrevue avec les deux auteurs Sean William et Shane Dix, qui nous ont confirmé qu'ils referait une entrevue. Donc
ça va être une émission assez spéciale, on vous le promet. Il y a une des surprises qui vont avoir lieu à cette émission là probablement, fait que on va même Danny est pas au courant.
Ouais, c'est ça.
Alors c'est ça, JJM vous promet des surprises pendant cette émission, autre que Shane Dix et Sean Williams, qui sont deux personnes très intéressantes. On vous invite à écouter. Alors,
exactement. Donc, ceux qui nous écouteront en archive, appelez-nous pas ou laissez pas vos commentaires, vous l'écoutez en reprise présentement. Donc, on va vous laisser sur la toune de l'OVMF Young Sherlock Holmes qu'ils ont fait au concert de Noël l'an dernier. Et puis, les crédits habituels de fin vont continuer avec ça. Donc, on vous dit à la prochaine.
Vous étiez à l'écoute de Radio Cyclan. Et non, ce n'est plus Radio Cyclan. Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct sur starwarsendirect.com.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Cette émission était une présentation de StarWarsEnDirect.com, Cyclon.net, Star Wars Galaxy France et Legends Action Figures. Surveillez StarWarsEnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Cyclon.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.cyclon.net. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Red 6 standing by.
Red 9 standing by.
Red 2 standing by.
Red 11 standing by.
Red 5 standing by.
Rocket 4 is in attack position.
Accelerate to attack speed.
Heavy fire, boss. 33 degrees.
I see it. Stay low.
There's a lot of fire coming from the right side of that deflection tower.
I'm on it.
Going in. Cover me, Porkins.
Red 6, mutiny Red 5. The heavy fire zone.
Red 5, where are you?
I can't shake him.
Hold tight.
Are you alright?
I got a little cooked, but I'm okay.
This is it, boy. We're in position.
We're starting our attack run.
Switch all power to front deflection screen. Switch all power to front deflection screen.
Say about 20 guns, some on the surface, some on the tower.
Targeting computer.
Computer one. Getting a signal. Guns, they've stopped. Stabilize your rear deflectors. Watch for enemy fighters.
They're coming in. 3 marks and 2 10.
Stay on target.
We're too close.
Stay on target.
Move to that.
Gold 5 to Red Leader. Boss, fire him on touch.
I copy, Gold Leader.
It came from behind.
Rebel base, 1 minute. Close it.
To keep those fighters off our back.
Right with you, boss.
Look, at that speed, would we be able to pull out in time?
It's just like Beggar's Canyon back home.
I'm in. I can't stay with you. Get clear, Wedge.
You can't do any more good back there.
Sorry.
R2, that stabilizer is broken loose against Steven Catlock is down.
You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home.
Luke, trust your feet.
Great shot, kid. That was one in a million.
remember, the Force will be with you. Always.
www.signal.net